TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 26 avril 2006 de 18h à 21h, en différé jeudi 27 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Résistance, bonsoir.
Résistons, résistons.
Tonton, tontaine et tonton. Voilà. Quelque chose à dire, monsieur Goffman?
Bonsoir, Serge de Bekech, et bonsoir à nos auditeurs dans le monde entier et au-delà.
Et très bien. Bonsoir
à tous.
Les invités de ce soir, Jean-Yves Le Gallou. Bonsoir, monsieur Le Gallou.
Bonsoir.
Qui vient nous parler de, du rapport que sa fondation a rédigé, la fondation Polémia, et ce rapport, c'est un rapport sur les émeutes du Ramadan d'octobre-novembre 2005. Bonsoir, monsieur Berteret.
Bonsoir, monsieur de Bekech.
Vous pouvez parler dans le micro, c'est une espèce de
parler dans le micro, mais
un micro, voilà.
Je préfère quand même rester extérieur.
Hein. Bon, alors, monsieur Berteret vient nous parler de la reprise de ces visites guidées de Versailles que je ne saurais jamais trop vous conseiller, n'est-ce pas, Marquis? Merveille, pure merveille. Et puis on dira un petit mot, mais il reviendra nous en parler plus longuement, d'un livre qu'il vient de publier, juste pour faire plaisir dans le cadre de l'écuménisme. C'est comme ça qu'on
dit. C'est très bien, vous aurez dit.
C'est comme ça que l'on dit quand on ne veut pas dire à quoi ça concerne.
Voilà.
Ce que ça concerne. L'écuménisme, à ma connaissance, pour moi qui ai fait un peu de biologie dans ma jeunesse, ça consiste à s'adapter au milieu. Et on s'adapte au milieu généralement en se protégeant.
Très bien. Alors en tout cas, c'est un livre qui s'intitule « Frères réformés, si vous saviez », éphéméride des guerres de religion, dont je recommande la lecture. Ça va mettre encore un petit peu plus d'amitié entre nous et nos frères réformés, et tout ça est très très bon pour l'avenir du pays.
Alors ce n'est pas le sujet de ce soir, mais je me permettrai néanmoins d'attirer votre attention sur le fait suivant. Ce n'est pas du tout dans cette optique-là que je l'ai écrit.
Bah, je sais bien que
bien
vous,
au contraire,
vous pouvez pas vous prêter la moindre attention malveillante.
Je dédicace ce livre à mes frères réformés, ces prochains si proches dans l'amour du Christ et parfois si éloignés par des informations partagées. Qu'ils se souviennent que la vérité, c'est par beaucoup moins que les non-dits, les calomnies et les provocations.
Il est un peu falso quand même.
Oui, c'est gentil pour nos frères déformés.
Mais non, mais c'est bien. Voilà, ça y est.
Qui ne croit même pas à la Sainte Vierge.
Non, ne téléphonez pas, j'en prie, amis protestants, parce que franchement.
Ne protestez pas.
Le téléphone va à fond. Ne protestez pas. Et bien maintenant, avant d'aller plus loin, je vais donner la parole à quelqu'un qui n'est pas protestant, qui s'appelle Bernard Anthony. Bonsoir Bernard.
Bonsoir.
Et je vous ai demandé d'intervenir rapidement parce que vous organisez un dîner prochainement.
Très vite, Serge. Bonsoir aux auditeurs, bonsoir aux gens qui sont dans le studio. Oui, c'est le déjeuner de la Drif. J'y reviendrai dans l'émission de la semaine prochaine. On peut encore s'inscrire naturellement le 13 mai. On s'inscrit à la Drif au 70 boulevard Saint-Germain. C'est le début d'une institution, le déjeuner annuel de la Drif, où nous convions les autorités de la République. Monsieur Villepin nous a d'ailleurs répondu courtoisement. Il ne pourra pas être là, on s'en doutait un peu, il est pris par son emploi du temps, mais du moins a-t-il pris la peine de nous répondre courtoisement. Il y aura là tous les journalistes, ou à peu près, je pense, de la presse nationale, dont vous, Serge de Bekech, des amis de présent, de Rivarol, de National Hebdo, de Mondévi et d'autres que j'oublie très probablement. Voilà donc, nous parlerons des procès de la Drif, des combats de la Drif, et puis nous parlerons d'une décision que nous avons prise, c'est une décision politique, bien entendu. Nous n'avons guère d'illusions, mais de poursuivre M. Bouteflika. Voilà, nous expliquerons toutes ces choses-là. Ça sera donc le grand déjeuner, le premier déjeuner annuel de la DRIF. Ceux qui s'inscrivent, 50 euros, 70 boulevard Saint-Germain, et on peut même téléphoner 01 40 46 96 31.
Répétez-le s'il vous plaît.
Et ajoutez 75 05 Paris.
Oui. Merci, cher camarade Goffman. 70 boulevard Saint-Germain, 75 005 Paris, et le téléphone 01 40 46 96 31. Je pense que ça sera une grande journée.
Merci beaucoup, Bernard. J'ajouterais pour conclure ce tout début d'émission que 50 euros, effectivement, ça peut paraître un prix lourd pour un déjeuner, mais il s'agit pas de se goberger, il s'agit pas de s'en coller plein la lampe avec champagne, caviar.
À 350 francs, c'est pas possible.
Non, c'est mais difficile.
Nous n'avons rien trouvé à moins, et je regarde des amis très chers comme ceux du Cercle Renaissant, du Club de l'Horloge, je constate qu'ils font en général des dîners plus chers parce qu'on ne trouve pas à Paris, ça devient terrible. En province, nous organisons des choses pour des coûts bien moindres. À Paris, c'est proprement parlé infernal, voilà. Alors, je suis navré de devoir demander à 50 euros et je vous prie de croire que la DRIF n'étant subventionnée par aucune administration, aucune association, n'étant pas un parti politique, ne touchant pas de l'argent au prorata des résultats obtenus aux élections, la DRIF n'a pas le choix et elle est animée par des militants qui ne sont en rien défrayés, je le dis en toute simplicité, pour expliquer ce 50 euros qui me fait un peu mal aussi, je le reconnais.
Merci Bernard. Oui, il y a une chose d'ailleurs que moi je n'ai personnellement jamais compris, c'est que quand vous allez dans un restaurant, vous voyez le menu à 10 euros. On trouve ça assez facilement, menu à 10 euros. Si vous arrivez en disant je veux 30 places, le gars vous dit bon, très bien, ce sera 30 euros par personne. Je dis, mais non, puisque je vous prends toute la salle, ça fait 300 euros moins la remise habituelle. Ah non, parce que ça c'est du travail.
Ah oui.
Donc s'ils ont 30 clients qui viennent par couple, c'est moins cher que s'ils voient 30 clients arriver d'un seul coup. J'ai jamais compris leur système. Je me demande s'il n'y a pas un peu d'arnaque derrière.
Ce que je comprends surtout, c'est qu'il y a 30 ans, et là ça ne me rajeunit pas, quand j'ai organisé mon premier grand déjeuner débat au Lutetia, c'était un prix accessible qui n'effrayait pas le jeune prof de lettres que j'étais. Eh bien, aujourd'hui, au Lutetia, par exemple...
Le Lutetia, c'est parce qu'ils avaient gardé les habitudes de l'époque.
Oui, eh bien, je constate...
De l'abvers, pour être précis.
Je constate qu'on m'a demandé, pourquoi pas le dire, 80 euros. C'est le prix des Hilton, des Saint-Michel. C'est hallucinant. Et comme vous le dites, Serge, je ne comprends pas pourquoi c'est beaucoup plus cher quand on est nombreux que quand on n'est pas nombreux.
Ouais. Enfin voilà, en tout cas, donc le 13 mai, c'est ça, hein?
Le 13 mai.
Le 13 mai, 30 euros, et quand vous téléphonerez pour réserver...
Non, 50
euros, pardon.
Le prix du triangle.
Quand vous téléphonerez pour réserver, on vous dira où ça se trouve.
Voilà.
Merci Bernard, à bientôt.
À bientôt, au revoir.
Puisqu'on parle de restaurant, je signale
pas
que...
Pas cher.
Le restaurant pas cher est bon. Alors je signale que le 1er mai, à la suite du défilé, vous n'êtes pas absolument obligé, les centaines de milliers de Parisiens qui vont participer, et surtout de provinciaux qui vont participer au défilé, sont pas absolument obligés d'aller manger dans les gargotes à 300 francs 6 sous, ou les merguez pourries qu'on vous vend dans des cabanes à lapins transportables sur roues. Aux alentours de la place de l'Opéra, lesdites cabanes à lapins étant tenues d'ailleurs par des gens qui probablement font des cochonneries sur la nourriture en disant que ce sera toujours ces saloperies que ces fascistes boufferont ou que ces racistes boufferont. Donc, si vous voulez manger très correctement, je signale à nos amis que certains restaurants amis vont être ouverts
exprès.
L'Alzaco, par exemple, proposera lui un repas, alors avec boisson à société, mais pas au-delà de l'ivresse quand même, le repas pour 40 euros. Donc il faut téléphoner à 0, mais vous pouvez venir tout seul, le repas est à 40 euros, si vous êtes deux, vous paierez 80 euros, c'est ça que je veux dire. L'Aljaco, c'est pas très loin de l'Opéra d'ailleurs, c'est à 3 stations de métro, l'adresse est 10 rue Condorcet, Paris 9e, et le téléphone c'est 01 45 26 44 31, 01 45 26 44 31, et vous réservez. Alors, ça sera ouvert si il y a au moins 15 personnes qui appellent, Mais je pense qu'il y aura évidemment 15 personnes.
Sur 200 000, c'est
sur 200 000 ou 300 000, c'est non, c'est assez possible. Autre excellente adresse, je la signale, c'est Les Ronchons, qui est un restaurant qui sera ouvert également, qui est délicieux. D'ailleurs, la preuve qu'il est délicieux, c'est que le critique gastronomique du Figaro en a dit du mal. Il a dit que c'était une cuisine, comment il a dit ?
Poussive.
Poussive.
C'est la façon mal élevée de dire traditionnel.
Oui, c'est ça. C'est la façon de dire que c'est bon. Façon mal élevée de dire que c'est bon. Et alors en plus, c'est des gens adorables. Les Ronchons, c'est deux frères qui tiennent ce restaurant. Lapin Bleu et son frère. Je livre un lourd secret, c'est que le patron, on l'a surnommé Lapin Bleu.
Ah ben c'est lui qui vient d'envoyer un message pour dire que je m'étais trompé en disant que Davidoff était mort le 14 janvier. Et il me dit qu'il est mort en 1994, je suis désolé de le démentir, il est mort cette année, Davidoff.
Mais ils sont plusieurs, là.
Il y a plus... ah, oui, c'est un autre.
Il y a déjà des Davidoff qui sont morts.
Donc c'est bien le Lapin Bleu, c'est celui-là. Là.
C'est ouais. Lapin Bleu, voilà, c'est ça. Alors, ben, enfin, il est donc propriétaire avec son frère d'un restaurant qui s'appelle Les Ronchons, mais qui est appelé comme ça par antinomie, parce qu'ils sont adorables et marrants comme tout.
C'est
25 quai de la Tournelle. Alors vous pouvez faire exactement comme chez Gold, quand vous avez vos habitudes à la Tour d'Argent,
un peu plus loin.
Vous allez pratiquement à la Tour d'Argent et c'est à 30 mètres.
Métro Pont-Marie alors.
Pont-Marie, oui, c'est ça. Ah, si on veut, 25 quai de la Tournelle, le téléphone c'est le 33, pour le 33 si vous téléphonez de l'étranger,
c'est le
01-46-34-50-99. Très bonne maison. Il y a une autre maison que vous pouvez découvrir, puisqu'on en parle, qui est marrante comme tout, parce que, enfin elle est marrante, c'est une très très bonne maison aussi, une brasserie élégante et de grande tradition parisienne, puisque c'est la brasserie où le pendu de la lanterne du Châtelet a fait son dernier repas. Vous voyez qui je veux dire ?
Oui.
François Villon ?
Mais non, Nervin.
Nervin. Oh, pardon.
Alors, ce restaurant s'appelle L'Époque, et il est tenu, c'est ce qui fait son charme pour nous, par Gaëlle, qui est Gaëlle Fournier, la fille d'ADG. Voilà.
C'est pas au Châtelet, c'est au Palais Royal.
Mais j'ai pas dit que c'était au Châtelet. J'ai dit, c'est là que Nervin l'a fait. Alors c'est au Palais Royal, effectivement, juste en face du ministère des Finances, c'est ça ?
J'étais un peu outré. Hein.
Ouais. C'est rue, comment ça s'appelle cette rue ? Peu importe. Enfin, c'est du côté du Grand Louvre, là.
Ça fait une grosse rubrique gastronomique, c'est ça ?
Mais oui, mais c'est... Et puis alors, je suppose que la mère agitée sera ouverte si elle m'entend, que le restaurant est ouvert, qu'elle nous appelle, on le dira. Voilà. Fin de la rubrique gastro, mais je voulais le dire parce qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont venir, et plutôt que de manger, je dis encore une fois, dans les gargotes à 3 sous, il vaut mieux aller chez les amis.
Donc quand est-ce qu'on commence à râler ?
On va râler juste après que j'aurai présenté Jean-Yves Le Gallou. Donc Jean-Yves Le Gallou a fondé une fondation par le fait, voilà. Dirige une fondation, c'est ça ? Vous en dites, quelle est votre,
non,
votre
c'est,
fonction ?
C'est très collectif.
C'est très démocratique.
Voilà, absolument. Non, très coopératif. Très coopératif, puisque l'objectif est de faire connaître un certain nombre de faits et de faire connaître un certain nombre d'analyses à travers un moyen qui nous paraît aujourd'hui le moyen de communication le plus révolutionnaire, à savoir Internet. Et donc notre activité, notre fondation, c'est d'abord de nourrir un site internet qui s'appelle polemia.com, auquel j'invite évidemment vos auditeurs à se reporter, sachant que le moyen de communication internet a aussi besoin des moyens classiques pour se faire connaître, et des moyens comme Radio Courtoisie, de ce point de vue-là, sont particulièrement précieux. Mais notre activité, et c'est en cela qu'elle est tout à fait coopérative, puisqu'au fond chacun peut contribuer à nourrir le site. Notre activité, c'est d'apporter des faits, de la réflexion, des analyses, évidemment en décalage par rapport aux analyses dominantes, sur Internet à travers ce site polemia.com.
Alors le travail que vous présentez là, sur Internet, vous l'avez imprimé pour à mon usage personnel, je vous en remercie, mais pas seulement personnel, d'ailleurs il a été imprimé, je sais, pour plusieurs autres personnes de qualité. Et donc c'est un dossier très complet, puisqu'il fait quand même... Pourquoi vous riez ? Parce que j'ai dit de qualité ?
Oui, non, mais je m'étonne.
Non, mais c'était par antiphrase, c'est-à-dire il y a moi et puis les personnes de qualité.
La modestie est votre principale qualité, Serge.
119 pages, ça fait. Et c'est pas du baratin de journaliste, c'est du solide. Encore qu'il y a quelques journalistes qui collaborent à Polémia.
Oui, enfin, ouais, puis on travaille aussi beaucoup à travers de sélection de sélection d'informations qu'on peut trouver dans la presse, notamment dans la presse internationale, car d'ailleurs on a pu constater lors de cette affaire des émeutes de novembre dernier qu'il y a un certain nombre de faits qui n'apparaissaient pas dans la presse française étaient au contraire connus ou qu'en tout cas il y avait une plus grande liberté de parole dans la presse internationale, y compris dans les médias relativement convenus, mais qui n'avaient pas les mêmes rigidités et les mêmes censures que la presse française. Donc effectivement, un des éléments de notre manière d'acquérir l'information, c'est aussi d'aller la chercher en dehors des canaux habituels, même si parfois on trouve aussi des lapsus dans les canaux habituels d'information.
Il faut dire aussi que la presse étrangère, c'est une des dernières. Enfin, contrairement à la presse française, c'est pas une presse soviétique.
Et d'abord, elle vit un peu plus de ses lecteurs, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais enfin, on voit de manière tout à fait amusante en ce moment, dans l'affaire de François, à quel point il concevait de faire un journal à condition que l'offre puisse ne pas répondre à ce que pouvait
attendre
tel lecteur. C'est tout à fait amusant.
C'est exactement comme le cinéma français. Le cinéma français n'existe que par des subventions qui sont versées pour faire des films que personne ne va voir, bien entendu. Parce que le français, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir les bronzés, ils vont voir Astérix, ils vont voir, mais quand on sort du cinéma intellectuel français, c'est
il y a aussi une bonne comédie française.
Enfin, oui, non, mais c'est ça, bien sûr. Non, mais je dis pas les bronzés, je l'ai pas vu, mais
je suis pas sûr que ce soit dans cette catégorie d'ailleurs. Mais enfin,
je demanderai à mon fils de me passer la cassette quand il l'aura piratée.
Ah bah, on pirate plus les cassettes, on les télécharge sur Internet maintenant.
Oui, c'est ce que je veux dire. Ouais, enfin, oui. Je m'exprime mal, mais c'est l'idée.
Mais l'idée est là, voilà.
Je note.
Non, mais là, on parle plus de Vincent Berthelot.
On constate
pas la moindre idée de ce dont on parle. Cinéma, comédie, cassette, vidéo. Internet, vous avez fini par vous y mettre quand même.
Je suis sur Internet, oui.
C'est bien. Petit à petit, il s'approche du 19e siècle. Bientôt, il va franchir la barre.
Je pense que vous n'atteindrez pas le 22e si vous continuez comme ça.
Bon, alors, donc je résume le sommaire, je lis le sommaire de cette présentation de Polémia. Le titre, c'est « Rompre avec l'antiracisme », qui est déjà assez gonflé. L'antiracisme, communisme du 21e siècle. L'image est excellente. Ensuite, vous donnez des chiffres. Alors, les chiffres, je ne vais pas m'amuser à les donner ici, mais ils sont quand même assez ahurissants. Hein, parce que... ça, c'est exactement le genre d'information que ne donne pas la presse.
Non. Alors, il y a d'autres chiffres, d'ailleurs, que je vais donner là, parce que je ne les ai pas donnés dans cette étude, parce qu'on les a mis en ligne plus tard. Tout ça est disponible.
Il suffit de faire polémia.com. Et puis, si vous n'avez pas Internet, j'ai fait dans le dernier numéro du Libre Journal, celui qui est paru aujourd'hui d'ailleurs, j'ai fait 4 pages qui sont très très largement inspirées des résultats de l'étude de Polémia, notamment du point de vue des chiffres, et qui sont surtout consacrées à un truc, puisqu'on parle d'Internet, qui est quand même incroyable, c'est un gang de voyous... De jeunes Français comme Moussaoui qui publient un blog sur Internet dans lequel ils se font photographier. Alors on les voit photographier avec des armes, on les voit photographier avec de la cam, on les voit photographier avec des billets, des valoches de billets dont l'origine est assez peu difficile à établir. On les voit photographier en train de se battre avec les flics. Et ils sont tout contents de se montrer comme ça.
Ils sont complètement dépassés, Serge. Vous avez vu ce que publie le Parisien aujourd'hui.
Alors voilà, maintenant la mode, c'est effectivement, vous avez vu ça, Jean-Yves Le Gallou, cette histoire de cette prof qui a été agressée cinématographiquement, physiquement et cinématographiquement, à Porcheville.
Par Mamadou, que Rachid filme.
C'est pas Mamadou, c'est
donc Abdoulatif. Donc la préméditation est établie, je pense.
Abdoulah, il s'appelle, non? Non, c'est important de pas laisser planer le moindre doute sur les prénoms. Abdoulah, voilà. Non, il faut pas non plus. Et donc, alors on voit, dans le Parisien publie quelques images de l'agression. D'ailleurs, à mon avis, le gars qui a filmé, il devrait laisser tomber le cinéma. Hein. Il est pas très au point. Voilà.
Ceci étant, sur ces choses-là, je crois, j'entends quelques réactions. Ce qui est le plus grave, c'est l'agression. Ouais. C'est pas ensuite le fait que les gens utilisent des moyens modernes de communication qui existent.
Mais ce qui est formidable, c'est que la...
pour en parler. Donc l'acte qui doit être poursuivi, avant même, j'entendais parler déjà de faire une nouvelle loi pour poursuivre la communication de ce type d'information. Bon, d'abord, les lois existent déjà là-dessus, mais il y a déjà des lois qui punissent l'agression elle-même. Encore faut-il
qu'il y ait des applications,
ce qui n'est pas forcément simple.
De France Info et de France Finter, c'est à l'évidence que on n'est plus filmé. Bon, qu'on casse la gueule d'une prof, après tout, ça fait partie des choses.
Oui, mais aussi, pourquoi nous a-t-on répété à l'envi qu'elle avait été agressée, donc c'est clair, et qu'elle avait rien? J'ai entendu sur toutes les radios qu'elle allait très bien.
Je ne sais pas si elle allait très bien, mais là, sur les photos qu'on voit dans le Parisien, elle n'a pas l'air si bien que ça.
Et pourquoi les radios ont répété ça sans arrêt?
Je crois d'ailleurs que ce qui choque la presse, si la presse insiste, non pas sur l'acte lui-même, mais sur la diffusion, la communication de l'acte, par ces moyens-là, que ce soit les blogs ou les téléphones portables, etc., c'est qu'elle voit là l'existence d'une concurrence. Voilà. Et c'est ça qui c'est la réaction est une réaction de défense corporatiste. Bon, parce que je veux dire, l'acte est condamnable en lui-même, indépendamment de la diffusion des images.
Mais je crois que vous avez parfaitement raison, parce que j'écoutais hier ou avant-hier dans les informations l'annonce. J'entendais l'annonce prochaine d'un texte de loi, le 176 millième texte de loi de la journée, qui visait à limiter la concurrence que les blogs faisaient à la presse et aux médias officiels.
Il y a une inquiétude extrêmement forte de la presse officielle, pas seulement d'ailleurs en France, peut-être un peu plus en France qu'ailleurs pour les raisons qu'on connaît, mais aussi dans d'autres pays, parce qu'effectivement, la classe journalistique est en train de perdre son monopole de diffusion de l'information. Et évidemment, c'est extrêmement grave. On l'a vu d'ailleurs fonctionner, on l'a vu fonctionner sur le référendum, par exemple, où il y a eu un travail qui a été fait sur Internet, qui est allé tout à fait à l'encontre de ce qui pouvait se faire dans les médias officiels, et même sur des événements comme les émeutes des banlieues dont nous parlons, où là, les grands médias ont repris un peu la main compte tenu de l'ampleur des événements et de la couverture qu'ils ont donnée, mais malgré cela, il y a eu toute une information qui a circulé par des canaux tout à fait différents et tout à fait indépendants.
Il y a une autre réaction des gros médias. France Inter, par exemple, ce matin, en rapportant l'affaire de cette agression d'enseignante à Porcheville, essaie de dire avec une fausse ou vraie candeur, je ne sais pas, mais c'est étonnant que ces jeunes gens filment et créent des preuves contre eux-mêmes. Auraient-ils un sentiment d'impunité? Alors, je ne sais pas si c'est de la candeur vraie ou fausse, mais quand on se rappelle, par exemple, que le sieur Fofana, qui a torturé à mort une personne qu'il avait kidnappée, était dans le collimateur de la police et de la justice depuis 1994, il faut leur répondre, avec ou sans candeur, que oui, ces gens ont un sentiment d'impunité, et c'est sans doute pour ça que ceux de Seine-Saint-Denis appellent les juges de Bobigny les Pères Noël. Les Pères Noël, parce qu'ils savent qu'ils vont être condamnés à un mois avec sursis, 40 fois, 50 fois, 60 fois.
Et pour des raisons que Maud Marin a raconté dans son bouquin terrible, c'est qu'ils sont terrorisés, les magistrats.
Pitié pour les victimes.
Ils ont peur. Bon, pitié pour les victimes. Elle raconte des rencontres, enfin des comparutions devant le juge d'instruction où elle arrive avec des voyous. Enfin, elle est avocate nommée d'office et elle arrive avec le voyou pour la défense duquel elle a été désignée. Et elle voit que le juge d'instruction, littéralement, se fait dans son froid qu'il est terrorisé. Et la seule fois où c'est le prévenu qui est terrorisé, c'est le jour où il y a les résultats de je ne sais quelle consultation électorale et où Le Pen est annoncé faisant 19% des voix. Et là, le type, affolé, dit mais alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Le Pen, 18%, c'est le fascisme et tout, on va être obligé de partir.
C'est l'arme absolue.
Voilà. Bon, dans Polémia, donc dans cette étude de Polémia, il y a j'ai dit qu'il y avait des chiffres qui étaient assez étonnants, assez effrayants d'ailleurs, il faut bien le dire. Et puis, il y a également un aspect qui est tout à fait intéressant, c'est l'étude que vous faites sur l'économie souterraine, qui explique de façon évidente la genèse des émeutes. Et surtout, l'absence totale de répression réelle, parce que ce que vous démontrez, c'est que si l'État portait le fer contre l'économie souterraine, c'est-à-dire le trafic de drogue, le trafic de pièces volées, et là il y a un chapitre, je ne veux pas tout citer, mais un chapitre qui est passionnant, qui est très très bien fait, sur les différentes sources financières de cette économie souterraine, le vol, le trafic, la fraude, et puis la drogue bien entendu, et tant d'autres choses. Et l'État sait que s'il porte le fer là-dedans, il provoque, alors là, il démantibule un système qui fonctionne en auto-allumage et qu'il va provoquer, à l'évidence, ça va provoquer un soulèvement général des banlieues parce que les gens n'auront plus de quoi vivre. Ils vivent tous, enfin pas tous, mais n'exagérons pas, mais ils vivent très nombreux de ça.
Tout à fait. Alors je crois, si vous voulez, que ce qui a été très peu dit dans les événements, c'est que c'est la révolte, c'est très largement la révolte d'une économie de rente. C'est-à-dire une partie de la population, pas tous, faut pas non plus simplifier les choses à l'extrême, mais il y a une économie de rente, en ce sens qu'il y a d'ailleurs plusieurs formes de rente. Il y a la rente des trafics et de la délinquance, il y a la rente des entreprises qui servent en fait à blanchir l'argent des trafics, il y a aussi la rente sociale avec la diffusion massive sur ces zones-là d'aide en termes de prestations sociales ou familiales qui créent aussi un phénomène de rente et le tout étant couvert par ce qu'on pourrait appeler justifié par la rente idéologique, étant la culpabilisation des Français et l'antiracisme et le rappel permanent d'un certain nombre de faits culpabilisants. Et il est évident que cette rente idéologique garantit les autres rentes. Et de ce point de vue-là, la révolte a payé, puisque finalement, elle a conduit à réinjecter de l'argent dans les banlieues, avec une logique qui est toujours celle des totalitarismes, une logique implicite. Quand une politique ne marche pas, c'est pas parce qu'elle est mauvaise ou parce que ses présupposés sont mauvaises, c'est parce que on en a pas fait assez, donc ça n'a pas marché, donc on va en faire un peu plus.
Alors il y a ce phénomène de
rente qui est effectivement très préoccupant. L'autre phénomène qu'on peut voir, c'est une sorte de séparatisme territorial de basse intensité. Séparatisme territorial de basse intensité qui s'exprime d'ailleurs quand vous entendez des gens, par exemple, comme ma mère ou certains hommes politiques qui disent que la police dans ces quartiers-là est en occupation, eh bien, ils reconnaissent au fond, pour eux, un séparatisme territorial qui légitime par ce propos. On aura d'ailleurs à terme, si les choses n'évoluent pas, on risque d'avoir un séparatisme territorial de plus haute intensité, parce que je pense que la logique, malgré tout, de la situation, c'est qu'un jour, il se constituera des pouvoirs politiques dans ces zones-là. Bon, il faudra peut-être attendre 2012 ou 2015, il y aura des logiques politiques au niveau de certaines communes ou au niveau de certains départements, et on pourra assister à ce moment-là à un séparatisme territorial de plus haute intensité. Mais pour le moment, on a un séparatisme territorial de basse intensité.
J'entendais tout à l'heure dans l'émission de Marin Griotré qui expliquait qu'un maire de sa région, du côté de Charenton, avait dit très clairement à la radio qu'il n'y avait pas eu d'incident dans sa commune parce qu'il avait négocié avec les patrons de la drogue. C'est-à-dire, vous imaginez un maire qui fait venir à la mairie les patrons de la drogue et au lieu de le faire immédiatement sauter par les flics et envoyer en tôle, il leur dit « Messieurs, comment peut-on s'entendre ?» Bon, alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire « Vous pourrez faire votre petit trafic dans tel et tel endroit, mais surveillez que les gars foutent pas le feu aux voitures et tout. » Donc ça...
Au Japon, les Yakuza font dans le charity business à grande échelle. Alors évidemment, c'est une mafia qui est beaucoup plus ancienne, mieux implantée, plus polie, mais on voit ça au Japon systématiquement, le charity business des Yakuza, de la mafia japonaise.
Et il y a un autre aspect que personne ne soulève jamais... qui est évoqué dans le rapport polémien, c'est le fait que on entre dans un système totalement mafieux. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que, par exemple, vous avez des supermarchés qui sont implantés dans des zones qu'on pourrait appeler monoethniques, pratiquement. Hein. Donc tous les voleurs, tous les petits trafiquants, tous les gens qui viennent se servir dans les supermarchés appartiennent en gros à la même région du globe. Eh bien, il n'est absolument pas question d'embaucher des vigiles de souche, français de souche. Parce que s'ils font quoi que ce soit, ils sont immédiatement taxés de racisme, et donc ils ne peuvent pas intervenir. Alors, on embauche des gars qui sont exactement de la même ethnie que les voleurs. Donc, c'est un truc de mafieux. Ça veut dire, on vient voir le patron du bar, on lui dit, si tu nous payes pas pour ta sécurité, ton bar va sauter. Hein, si tu payes pas pour avoir des vigiles qui viennent de tel village exotique, eh bien les gars du village exotique vont venir se voler.
C'est un élément de la rente, effectivement.
Alors, ça fait partie de la rente.
Presque, on serait presque tenté de dire là, ça devient de la rente légale puisque ça peut prendre la forme d'un salaire normal. Mais c'est un élément effectivement supplémentaire de ce phénomène.
Alors maintenant, je vous dirais que. Il y a quand même quelque chose. C'est une analyse, c'est un rapport que vous posez, c'est une étude sur une situation. Mais quand on arrive à la fin, on est un peu, on reste un peu sur sa fin parce que il n'y a pas de proposition en fait.
Non, là, en l'occurrence, nous sommes dans le domaine du diagnostic. Mais je crois que le diagnostic est préalable. Le diagnostic, quel est-il? C'est qu'effectivement, on a une économie de rente qui est couverte. Qui est justifié, qui est légitimé par la rente idéologique. Et que par conséquent, la première des solutions, la solution fondamentale, initiale, c'est de renverser l'idéologie dominante. C'est-à-dire que tant qu'on est dans la logique de l'antiracisme, que fin quelconque, là c'est une jolie formule, à appeler, je crois, à très juste titre, le communisme du 21e siècle, tant qu'on est sur cette logique-là, rien n'est possible. Hein? Rien n'est possible. Donc il faut renverser cette logique-là, parce que sinon on ne pourra rien faire, parce que si on veut agir à la marge de la logique antiraciste, eh bien on ne pourra pas faire de choses efficaces, parce qu'on restera dans une logique au fond culpabilisante qui délégitimera toute action un petit peu efficace. Hein? Donc voilà, il n'y a pas en l'occurrence là de solution technique. Bon, il y a d'autres aspects qu'on peut voir. Il y a deux chiffres que je voudrais citer qui ne sont pas dans ce rapport, mais qui sont sur Internet, mais qui sont, je crois, extrêmement importants. C'est le nombre des musulmans en France et le nombre des naissances musulmanes. Le nombre des naissances musulmanes, d'après les travaux de l'Institut de géopolitique des populations, Yves-Marie Lolland et Philippe Boursier de Carbon, d'après leurs travaux, le nombre des naissances musulmanes, il est de 16%, ce qui commence à devenir important. Non, 16% des naissances sont des naissances musulmanes. Aujourd'hui, hein, issus de parents musulmans. Pourquoi ce phénomène? Parce que on constate depuis quelques années une envolée des phénomènes de regroupement familial. Ça correspond aujourd'hui à 75% des entrées. Et on constate depuis 1990... une remontée des taux de fécondité des femmes issues de ces populations-là. Taux de fécondité qui est non seulement très supérieur à celui des femmes françaises ou des femmes européennes, ou même des femmes issues d'autres parties du monde, et qui est aussi supérieur, souvent, au pays d'origine. C'est-à-dire que la fécondité de l'Algérienne ou de la Marocaine ou de l'Africaine est souvent supérieure à la fécondité, quand elle est en France, à la fécondité du pays d'origine.
Il n'y a pas d'alloc dans le pays d'origine.
Pourquoi? Parce que la situation, c'est Boursier de Carbon qui développe remarquablement cette théorie, l'avantage relatif Puisque la logique actuellement, c'est d'aller chercher la femme au pays ou au bled, pour employer le vocabulaire qu'ils utilisent eux-mêmes, eh bien, la femme, quand elle arrive dans un dans une situation qui est relativement prospère par rapport à l'endroit d'où elle vient. Et donc, on a armé par ce type de dispositif, on arme l'aggravation du phénomène, puisque on fait venir en nombre plus important des populations en âge d'avoir des enfants, alors même que la vague précédente, manifestement, n'est pas correctement intégrée. Si vous me permettez, peut-être dans les solutions, ou dans les principes, parce que là je rentre pas du tout dans la technique, ça n'est pas notre propos, ça pourrait être, je dis pas que le sujet n'est pas intéressant, c'est pas celui qu'on a traité. La première chose, c'est le diagnostic. La deuxième chose, c'est la rupture avec l'idéologie dominante antiraciste. Et la troisième chose, ça serait peut-être d'appliquer le principe de précaution à l'immigration, puisqu'on le principe de précaution est aujourd'hui constitutionnel. On pourrait peut-être aussi l'appliquer à ce domaine-là, parce que manifestement, les immigrations des dernières décennies ne sont pas toutes parfaitement intégrées et encore moins assimilées. Il y a manifestement des problèmes. Donc le principe de précaution pourrait consister à dire, on va essayer d'abord d'arrêter de continuer à mener des politiques qui risquent d'amener, avec une forte probabilité, des problèmes encore plus graves dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans.
Voilà, ça s'appelle les émeutes du Ramadan d'octobre-novembre 2005. C'est une étude extrêmement sérieuse, extrêmement documentée, avec beaucoup de chiffres, beaucoup de citations, beaucoup de réflexions. C'est un document très 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 utile dans le débat sur l'immigration et ses conséquences et sur la sécurité en France. Et c'est fait par la Fondation Polémia. Alors l'adresse internet de Polémia, c'est très facile, c'est www.polemia.com, Polémia, polemia.com, c'est OM. Merci Jean-Yves Le Gallou.
Merci Serge Becquet. Je reviendrai volontiers présenter d'autres.
Voilà, avec plaisir, parce que productions. Ce sont des travaux. Pour un journaliste, c'est du nanan.
Ça, sûrement. Hein,
Merci beaucoup.
Merci.
Je vais demander. Se le procurer.
Je vous en.
On ferait une photocopie.
Oui. Une ultime question. Pourquoi vous n'envisagez pas de le publier sous forme imprimée, tout simplement? Pas pour l'instant.
Alors, on va publier sous forme imprimée, plus structurée, une autre étude dont je vous reparlerai, qui doit vous intéresser, sur la tyrannie médiatique.
Ah, voilà. Passionnant.
Mais sinon, quand même, l'idée de base, et il faut toujours rester fidèle aux idées de base, c'est l'accès Internet qui a le mérite de la souplesse, de la légèreté, de la rapidité.
Et qui a le mérite de pouvoir être mis à jour en permanence.
Bon, il faut toujours un peu ajuster par rapport à ces idées initiales. On fait parfois des petites dérives papier, mais enfin, l'idée de base, c'est Internet.
Polémia.com.
Alors attendez, vous avez un auditeur qui vous critique.
Gentiment.
Il vous dit, vous donnez l'adresse de votre site, donnez-le sans accent. Sur Google, si je réécris Polémia avec un accent, c'est rejeté.
Jamais
ce n'est pas vrai.
Je pense que ça.
Ce n'est pas vrai.
Je pense que ça passerait, pas vrai, ou à la limite, sur Google lui proposerait avec l'écriture sans l'accent. Je pense que ça passerait quand même sans l'accent, oui.
Ça dépend des serveurs.
Non, mais je pense quand même que ça passerait.
Quand ça sera le serveur français qui s'appellera qui quoi, ou je ne sais quoi, là ça commencera à merder.
Même si on met 3 F à Symfony, Google vous dit essayez avec cette orthographe et il vous suggère une orthographe.
Vive Google. Merci messieurs. Je vais demander à Franck d'appeler notre correspondant au téléphone.
Est-ce que vous pouvez répéter l'adresse du restaurant de la fille d'ADG?
Mais
on ne l'a pas donné.
Je l'ai comme un bécasson que je suis.
On a dit c'est au Palais Royal.
Il s'appelle L'Époque. Non, c'est pas au Palais, c'est entre le Palais Royal et du côté.
Enfin, alors exceptionnellement, on renvoie les auditeurs à l'annuaire ou peut-être aux pages jaunes.
Si quelqu'un veut regarder, nous communiquer. Oui, L'Époque. L'époque. E-P-O-Q-U-E. Et c'est une brasserie à l'ancienne, c'est-à-dire, vous savez, avec œuf mayonnaise, salade de tomates et les bons plats de famille et tout, c'est très très bien, très bien, très bien tenu, impeccable. Pendant qu'on appelle au téléphone, je me tourne vers Vincent Berteret. Vincent, vous reprenez quand votre programme de visite?
passer.
Alors, vu la façon dont cela se déroule, j'ai dû dissocier deux choses. D'une part, des visites faites par des groupes qui se programment en ensemble et qui sont de plus en plus nombreux. Et des groupes donc qui sont formés grâce entre autres à vos bons soins. Et ce qui fait que les groupes ouverts, donc ces groupes où l'on peut s'inscrire simplement, comme nous allons le dire, commenceront à circuler le samedi 10 juin. Peut-être faudrait-il rappeler en deux mots de quoi.
Oui, absolument, il faut rappeler de quoi il s'agit, bien sûr.
Alors, je sais que beaucoup d'auditeurs de Radio Courtoisie connaissent, grâce à vous, le livre que j'ai eu le bonheur d'écrire sur les jardins de Versailles et le fait que ces jardins sont profondément signifiants. J'ai eu le plaisir de découvrir qu'il y avait un code et de décrypter ce code. Par parenthèse, j'insisterai sur le fait que ce n'est pas parce qu'il y a un code et une connaissance à avoir pour le connaître et le percer que cela est pour autant ésotérique. C'est initiatique, bien sûr, mais Louis XIV est un bien trop bon catholique pour ne s'être jamais fourvoyé dans le grave péché contre l'esprit qu'est l'ésotérisme.
Mais quand vous dites initiatique, c'est exactement le même titre que l'enseignement des mathématiques ou de la lecture ou est initiatique. C'est une forme.
Oui, mais
ça
quand vous dites
une nouvelle connaissance.
Voilà, mais quand vous dites mathématique, peut-être certaines personnes, bien à tort, pensent qu'il s'agit de quelque chose de réparatif.
Ah non.
Alors que ni les mathématiques, pour moi en tout cas. Mais en tout cas, la visite de Versailles n'a rien de rébarbative. Et donc, nous organisons ces visites pour suivre ces parcours que Louis XIV a très secrètement tracés dans les jardins. Et la symbolique qu'il y a développée, et là encore, c'est pas parce qu'on parle de symbole qu'on parle de maçonnerie, les symboliques existaient quelques siècles avant les maçonneries. Oui. Et notre Sainte Mère l'Église est la première à utiliser les symboles. C'est bien, je crois, le nom que l'on donne à ce qui nous rassemble, le symbole des apôtres. Donc, la symbolique que développe Louis XIV n'a rien de satanique, et ce n'est pas non plus une satanique pythagoricienne, ni que sais-je. Louis XIV est un catholique romain qui tient essentiellement à son appartenance à notre Sainte Mère l'Église, et la symbolique qui est développée dans les jardins est une symbolique rigoureusement catholique, mais dois-je le préciser, c'est une symbolique qui est tridentine, qui est fidèle au Concile de Trente et qui n'est peut-être pas exactement ce que certains aujourd'hui croient être l'Église catholique. Alors cette visite se fait sur une journée, en deux temps. On se retrouve le matin, grand matin pour moi, vers 11h15, pour faire une première partie de la visite. Puis nous faisons un pique-nique sur l'herbe près du Grand Canal. Et je me permets de rappeler qu'à Versailles, il fait toujours beau. Et puis après cet intermède, nous continuons la visite et cela se termine dans mon programme à 16h30, mais vu les questions, plus souvent vers 17h15, 17h30.
Vous avez la description de tout ça dans le livre journal que les gens vont recevoir, le numéro 377.
Le micro,
mon cher.
Attendez, excusez-moi. Alors, je recommence. Tout ce que vous venez de nous expliquer, c'est un peu plus condensé dans le prochain numéro du livre journal. Mais vous avez commencé en nous disant que vous allez débuter vos visites le samedi 10 juin. Mmh. Or, dans le livre journal, je vois qu'il y en a une le dimanche 7 mai.
Le dimanche 7 mai a été squatté, disons-le franchement, par un groupe qui fait qu'il n'y a plus vraiment de place.
Ah, d'accord.
Dans ces visites-là, et tout le mois de mai d'ailleurs est pris par des groupes, dans ces visites-là, j'ai deux craintes. N'être pas assez nombreux, parce que vu qu'il s'agit de sujets un peu intimes, les trajets de Versailles décrivent des chemins personnels, ce qu'est notre vie profonde ou notre vie sociale, mais l'examen que l'on en fait en soi-même. Alors quand on n'est pas très nombreux, certaines personnes, et je leur pardonne, mais qu'elles ne recommencent pas, me prennent pour un gourou. Alors je ne suis pas du tout un gourou, je mène sur les chemins qui sont tracés d'une façon, on peut dire somme toute, explicite. quand il y a suffisamment de monde, je n'ai pas à subir cette insulte du gourouisme. Et puis quand on est trop nombreux, cela ne permet pas un contact suffisant. Je ne le sais pas pour les visiteurs, mais en ce qui me concerne, j'aime bien rencontrer les gens qui me font confiance. Et donc je n'aime pas que nous soyons trop nombreux.
Donc pour le 7 mai, les lecteurs, c'est pas la peine qu'ils s'inscrivent alors.
Alors pour le 7 mai, ce n'est plus la peine.
Et donc c'est à partir du 10 juin. D'accord.
Et donc les visites commencent le 10 juin et dureront jusqu'au dimanche 15 octobre, ce qui n'est pas indiqué ici.
Oui.
Et pour ce faire, le plus commode, c'est de me joindre à l'adresse suivante, AMDG, ce qui signifie...
Parce que dites-le, c'est tellement beau, il faut le dire, mais bien sûr.
Ad majorem Dei gloriam. Je témoigne là de toute la reconnaissance que j'ai pour les jésuites, et Louis XIV aussi. AMDG, donc, 4 rue Salomon Reynac.
Qui n'était pas jésuite.
Qui n'était pas jésuite, mais qui était très drôle quand même. R-E-I-N-A-C-H. 78100 Saint-Germain-en-Laye.
Voilà. Merci Vincent. Je ne vous donne pas beaucoup la parole, mais vous reviendrez nous voir pour nous parler de votre livre « Frères réformés, si vous saviez, éphémérite des guerres de religion », paru aux éditions AMDG. Je sais pas, on n'a pas pris de date encore.
Nous n'avons pas pris de date, mais je sais que vous allez partir reposer votre vieux corps souffrant.
Et soyez donc... soyez gentil avec les...
On donne une adresse électronique aussi, amdg@tele2.fr. AMDG.
Oui, ça c'est pour vous écrire ça.
Oui.
C'est pas
pour connaître les tarifs, pour confirmer les dates, les heures, le pique-nique, les détails techniques. AMDG@tele2.fr.
Merci beaucoup. Et je vous invite à rester parce qu'on va avoir une conversation qui peut vous intéresser. J'espère, parce que ça vous intéresse pas vous, je vois pas bien qui ça pourrait intéresser. Avec Monsieur l'abbé Secada. Alors je pense qu'il est au téléphone. Allô.
Oui. Allô.
Bonsoir Monsieur l'abbé. Je dis bonsoir parce que à Paris nous sommes. Il est 18h48 et chez vous il doit être quelque chose comme midi 48, non ?
Oui, exactement. C'est ça. Bonsoir la France.
Bonjour monsieur l'abbé, vous êtes aux États-Unis. Oui. Et voilà, j'explique pourquoi je vous ai appelé. Okay. Je vous ai appelé parce que j'ai découvert sur votre site internet, on n'en sort pas, qui s'appelle www.traditionalmass.org. Un exposé particulièrement clair d'une chose d'une gravité immense, me semble-t-il. C'est une étude que vous avez faite sur la validité de la consécration des évêques conciliaires depuis 18 juin 68. Et c'est une étude que vous intitulez « Absolutely null and utterly void », c'est-à-dire « absolument nul et entièrement vaine ». Ce faisant, d'ailleurs, vous reprenez la conclusion anticipée de la bulle apostolique écurier de 1896, de Léon XIII, qui avait sanctionné définitivement l'invalidité des sacres anglicans. Alors, on va expliquer pourquoi. Mais la première question que je veux vous poser, c'est celle de votre intention en publiant cette étude. C'est pas par hasard, je suppose, que vous la publiez le jour d'annonciation, puisqu'elle est datée du 25 mars 2006. Et qui est également le jour du 15e anniversaire de la mort de Mgr Lefebvre.
Exactement. J'étais ordonné par Mgr Lefebvre, j'étais dans le temps séminariste aux villes de Milwaukee, en état de Wisconsin, ville dans le Midwest central des États-Unis, et j'étais petit séminariste là, et après je suis entré à l'ordre cistercien, et j'étais envoyé en Suisse, à l'abbé de Fribourg, au nord de Suisse, et j'ai lu beaucoup de la question de la messe tridentin, et à ce moment-là, il y avait un grand débat dans la presse, c'était dans les années 75, sur le cas de Mgr Lefebvre. Et moi-même, j'étais attiré par les positions de Mgr Lefebvre. Et je suis entré le séminaire des Cônes cette année. Et Je suis allé parler une fois avec Monseigneur sur la question de mes anciennes amies dans le séminaire moderniste, s'il veut travailler avec la fraternité Saint-Pédis. Il m'a expliqué sa position sur la question des ordres conférés dans le nouvel rite.
Alors, quelle était cette position à l'époque de Mgr Lefebvre?
Oui, Mgr Lefebvre m'a dit que, on a supprimé quelque chose pour la prêtrise, et donc c'est de dose, et il m'a expliqué pour les consécrations épiscopales, c'est tout à fait invalide parce qu'on a changé la forme sacramentale. Et moi, j'étais choqué, j'avais entendu une telle chose.
Est-ce que la position de M. Lefebvre sur la question de la validité de ces consécrations a évolué par la suite et dans quel sens?
Excusez-moi.
Est-ce que sa position s'est modifiée par la suite ou est-ce qu'il est toujours resté?
Après quelques années, il a modifié, je crois, sa position. Dans les années 80, je crois qu'il est entré dans les négociations avec le Vatican. Et il a changé sa position un peu, en disant que apparemment ça vient de des rites orientaux et donc ils sont valides.
C'est ça. L'argument d'ailleurs des défenseurs de la validité, c'est de dire que le rituel conciliaire a repris des éléments de rituels beaucoup plus anciens qui étaient des rituels orientaux, oui. Et que ça confère donc à cette consécration la même validité. Ça, c'est la position actuelle des conciliaires. Hein.
Oui, c'est tout à fait faux parce que j'ai fait une comparaison entre la nouvelle forme de la consécration épiscopale et les rites orientaux. Et il y a quelque chose en commun, mais ils ne sont pas la même chose.
Alors ça, on va y venir tout à l'heure. Un peu plus tard, ce que je voudrais préciser d'abord, c'est que selon la bonne vieille formule « d'où parlez-vous ?», qui est une formule trotskiste, si je ne m'abuse, mon cher Patrick Goffman.
Intégralement marxiste.
Intégralement marxiste. D'où parlez-vous? Alors, je voudrais dire que vous parlez en tant qu'enseignant de théologie et de liturgie catholique au séminaire de la Très Sainte Trinité de Brooksville, en Floride, mm-hmm. que vous êtes prêtre, théologien et liturgiste. Et que par conséquent, vous êtes fondé à avoir un regard et une opinion, pardonnez-moi l'expression, professionnelle sur ces questions.
Ah oui.
Donc, je voudrais vous demander de rappeler pour les auditeurs brièvement ce qui fait un sacrement. Qu'est-ce qu'un sacrement?
Il faut avoir pour un sacrement la matière et la forme. Et la forme, c'est-à-dire la formule essentielle. Et pour le sacrement de l'ordre, Pie XII a expliqué qu'il faut avoir deux choses dans la forme sacramentale. C'est-à-dire la grâce du Saint-Esprit et le potestas ordinis, c'est-à-dire
les pouvoirs d'ordre
conféré. Ces deux choses sont requises. Si on enlève le potestas ordinis, on change la forme dans la substance de la forme. Et la forme, ne dit pas la même chose. Et donc, la conséquence et la forme est invalide.
Mais, pardonnez-moi, ma question est une question de Béotien, mais est-ce qu'on ne peut pas penser que si la forme devient invalide par la maladresse ou par la mauvaise volonté du célébrant ou de la personne qui ordonne, la bonne foi de celui qui reçoit le sacrement, est-ce que ça n'engage pas dans la voie de ce qu'on appelle l'ecclésia souplette? Est-ce que le Saint-Esprit ne supplée pas en quelque sorte à l'absence de célébrant?
L'Église ne peut pas supplier le manque d'une chose essentielle dans la forme. Parce que c'est requis. Il y a des choses dans la forme pour le baptême qui sont requises. Et si on omet le mot, par exemple, baptise, dans la forme de la baptise, l'intention du célébrant n'a rien à faire.
Mais est-ce qu'on peut dire, par exemple, que c'est du même ordre que l'invalidité de certaines messes qu'on a pendant un moment en Afrique, on voulait faire de l'acculturation et on célébrait une imitation de messe avec du vin de palme et du fruit de l'arbre à pain. Et moi, j'ai toujours appris que ça, donc c'était pas une messe, quoi, tout simplement. C'est du même ordre, alors.
Un peu près le même ordre, mais là on a changé la matière, et ici avec la consécration épiscopale, on a changé la forme.
Oui. Alors quelles sont les conséquences de ce changement de forme? Bon, c'est naturellement l'invalidité de sacramentelle, mais quelles sont les conséquences de l'invalidité sacramentelle dans la consécration d'un évêque?
Tous les sacrements qui dépendent de le caractère sacerdotal deviendront donc invalides, parce que c'est-à-dire la messe, les absoudres, l'extrême onction, etc. Parce que ces sacrements dépendent sur la validité de l'ordination sacerdotale qui vient d'un évêque. Un vrai évêque.
Donc ça veut dire que si l'évêque est invalide, tous les actes qu'il accomplit dans son ministère deviennent invalides?
Oui, dans son ministère sacerdotal.
Oui, sacerdotal. Oui.
Sacramental.
C'est-à-dire que s'il donne l'ordre, par exemple, à quelqu'un, la personne en question n'est pas prêtre.
Oui, exactement. Malheureusement. Oui, ce sont les conséquences.
C'est une modification qui date de quand précisément?
De 1968.
1968.
Oui, Paul VI a changé, le pontifical romain. Elle a modifié la formule pour l'ordination sacerdotale, un peu la supprimer un mot, et pour la consécration épiscopale, elle a tout à fait changé la forme essentielle.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le mot qui a été changé, en quoi la modification devient manifeste pour quelqu'un qui assiste à une ordination ou à un sacre d'évêque?
C'est-à-dire, dans l'ancienne forme a exprimé deux choses très nettement, très clairement, la grâce du Saint-Esprit et la plénitude de la sacerdoce. Et la nouvelle forme exprime dans un sens la grâce du Saint-Esprit, mais il n'exprime pas le pouvoir de l'évêque, le potestas ordinis. On a utilisé un mot expression en latin, spiritus principalis, et c'est le mot essentiel dans la forme. Et j'ai fait une petite étude sur la question de la signification de cette expression spiritus principalis, et j'ai découvert qu'il y a une bonne douzaine des significations de ce mot, mais parmi ces significations, on ne peut pas trouver l'idée de la potestas ordinis d'un évêque, et donc on a enlevé tout à fait de la nouvelle forme le concept de la plénitude de la sacerdoce. C'est disparu.
Est-ce que ça peut être expliqué par une maladresse de traduction, ou est-ce qu'à votre avis c'est quelque chose qui procède d'une volonté claire de modifier la forme du sacrement?
À mon avis, c'est le deuxième cas, parce que les hommes qui ont travaillé avec le nouvel rite de consécration épiscopale étaient des vrais modernistes, dont, à mon avis, dont Bott, Lécuyer, etc. Je crois qu'ils avaient une théologie tout à fait moderniste. Et puis, pour eux,
Nous ne vous entendons plus, là.
Oui. Donc,
parce que vous,
je crois que c'est fait exprès.
Vous parlez de l'abbé Bott, mais l'abbé Bott, justement, est celui qui a argumenté sur la base du précédent des liturgies orientales, coptes, syriennes, occidentales, etc., et qui dit, mais le nouveau rituel, en fait, n'est pas un nouveau rituel, c'est un emprunt qui fait un rituel beaucoup plus ancien et qui est le rituel oriental. Et vous nous dites, non, ça n'est pas vrai. Alors cette position, je dois dire, la position de Bott a été défendue récemment dans un article publié par le Sel de la Terre.
Oui.
Par, je crois, le frère Marie-Pierre.
Oui, oui.
Qui a donc exactement la même position que Bott. Et vous dites, non, le rituel ancien n'est pas conforme, le rituel moderne n'est pas conforme au rituel oriental.
Non, parce que le Dom Bott, lui-même, il a fait une étude des rites orientaux, et il a identifié une forme tout à fait différente dans le rite syrien dans le rite maronite pour la consécration épiscopale, une formule tout à fait différente. Ce qu'il a fait, Bott a pris la nouvelle forme pour la consécration épiscopale son œuvre de reconstitution d'une œuvre de Hippolyte. Et c'est une reconstitution. C'est tout à fait une reconstitution. C'est pas un vrai rite en usage dans l'Église catholique approuvé par les papes. C'est une création savante de Dom Bott.
Mais alors votre étude dans ces c'est quelque chose de totalement effrayant parce que ce que vous affirmez vous c'est que dans l'état actuel des choses tous les évêques qui ont été sacrés selon le rituel nouveau le rituel conciliaire à partir du 18 juin 68
oui.
Sont pas des évêques.
Oui, malheureusement.
Et donc tous les prêtres qu'ils ont ordonnés ne sont pas des prêtres.
Oui, malheureusement. C'est la conséquence. Si on applique les principes théologiques très très clairs, Pie XII a énoncé dans son encyclique Sacramentum Ordinis, c'est très très clair.
Alors, à votre avis, est-ce que vous avez une idée du nombre, selon votre analyse, si on accepte votre position, votre examen de la question, combien reste-t-il d'évêques validement consacrés dans le monde aujourd'hui? Parce que 68, ça fait 40 ans bientôt.
Oui.
On n'est pas consacré évêque avant 40 ans. Il n'y a pas beaucoup d'évêques de moins de 40 ans. Donc ça veut dire,
oui,
c'est des évêques de 80 ans.
Oui. Moi, je ne sais pas l'exact de numéro, mais on n'a pas changé le rite pour la consécration, pas changé beaucoup dans des rites orientaux. Donc, ce que je dis applique seulement au rite romain.
Oui. Et ça veut dire également que les évêques de la fraternité Saint-Pédis, alors Mgr Felet, Mgr Williamson, Mgr de Galaretta et Mgr Tissier de Malaret, eux sont validement consacrés.
Oui, il n'y a pas de question.
Oui. Et donc les prêtres qu'ils ont ordonnés sont validement ordonnés.
Oui, il fait des ordinations vraiment valides, etc. C'est Monseigneur Lefebvre qui a vraiment sauvé le sacerdoce dans ce sens-là.
Oui, alors là, c'est effectivement, oui, encore une fois, si on retient votre position, c'est providentiel, c'est plus que providentiel l'intervention de Monseigneur Lefebvre.
Oui.
Mais ce qui est étonnant quand même, c'est que votre position ne semble pas convaincre les prêtres et les évêques de la fraternité. Vous avez une raison, vous avez une explication à leur réserve?
Non, c'est bien possible qu'il n'y a pas beaucoup de prêtres de la fraternité qui ont vu mon petite étude. C'est nouvelle publiée.
Pourtant, elle est publiée, cette étude, donc chez vous, en anglais. Donc, j'ai donné l'adresse internet, c'est traditionnelmasse. www.lafabrique.org. Elle est publiée également en français. Il y a une traduction qui a été faite, qui est excellente, je le signale d'ailleurs, sur... comment s'appelle ce site, monsieur l'abbé Sécal? Voilà, Rore Scientifica. Point... C'est com, non?
Oui.
.com, oui. RoreSanctifica.com, où il y a le texte en français. Oui. Et j'invite les auditeurs que ce sujet intéresse, et comment n'intéresserait-il pas à se reporter à ce site, RoreSanctifica.com, où ils auront une excellente traduction de votre travail, de façon tout à fait très facilement accessible. Et une question encore, monsieur l'abbé Sécala. Quels sont les sacrements qui, si j'ose dire, passent au travers, si je peux m'exprimer d'une façon aussi triviale?
Excusez-moi.
Quels sont les sacrements qui restent valides? Bon, il y a le baptême et le mariage, puisque ce sont des sacrements.
Le mariage, effectivement. Oui. Mm-hmm. Baptême et le mariage.
Mais, par exemple, dans le cas de du sacrement de pénitence, enfin de la confession, donc. Moi, j'ai toujours entendu dire que si on se confesse à quelqu'un qui n'est pas validement prêtre, mais si on le fait avec la sincérité du cœur, on est en quelque sorte absous, non?
Il est nécessaire d'avoir le bon Dieu peut bien faire des autres provisions pour vous, mais la théologie de l'Église requise qu'il faut avoir un prêtre validement ordonné pour vous donner l'absoudre.
C'est assez effrayant ce que vous nous expliquez là, je trouve. Je sais pas, est-ce qu'il nous reste plus qu'à nous abriter derrière la phrase de l'Écriture qui dit « les portes de l'enfer ne prévaudront pas », mais comment pourrait-elle ne pas prévaloir dans une situation pareille?
Pardon?
Comment peut-on encore croire que les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir, puisque on va se retrouver dans une situation où il n'y aura plus d'évêques, il n'y aura plus de prêtres
on dit assez souvent que, en effet, l'Église est un peu éclipsée, hein?
Mm-hmm.
Sont les conséquences de Concile Vatican II, toutes ces conséquences horribles qui ont suivi le deuxième concile du Vatican. C'est vraiment horrible de vivre dans ce temps.
Est-ce que vous avez fait des propositions ou reçu des propositions de la part de prêtres, je pense au frère Pierre-Marie ou au Dominicain d'Avrillé ou à d'autres, des propositions de disputation sur cette affaire?
Non, pas encore.
Pas encore.
Non, non, non.
Mais vous seriez disposé à débattre, j'imagine, de cette question?
Oui, je crois que je suis toujours disponible. Je préfère d'écrire des articles.
Oui, bien sûr,
les questions sont vraiment compliquées, toutes les questions des rites orientaux, etc.
Monsieur l'abbé, je vous remercie. On va faire une chose, si vous le voulez bien. On a des questions, mais bon, on ne va pas pouvoir y répondre ce genre, parce que, et comme vous le dites, ce sont des questions extrêmement complexes. Moi, ce que je vais proposer à nos auditeurs qui s'intéressent à ces questions, c'est de m'écrire, s'ils ont des questions à vous poser, s'ils ont des arguments à faire valoir, de me les envoyer. Je vous les ferai parvenir aux États-Unis.
Okay.
Et puis, je vous réinviterai à cette antenne pour que vous puissiez répondre et approfondir cette question.
Oui, d'accord.
Je vous remercie beaucoup, monsieur l'abbé, gardez-nous dans vos prières.
Oui, merci pour votre patience avec mon français.
Non, votre français est parfait. Puis, vous savez, en temps de guerre, on ne s'occupe pas trop de l'accent des gens qui combattent dans le bon combat.
Le latin avec l'accent américain plus une touche d'accent suisse, c'est délicieux.
Okay. Merci, monsieur l'abbé. À bientôt.
À bientôt, merci.
Voilà, alors, je dois vous dire que quand j'ai fait part à quelques amis que j'allais recevoir l'abbé Sécada au micro, on m'a fait valoir que c'était pas une bonne idée du tout, parce que ça allait semer le trouble dans les esprits. Oui, enfin, il n'y a rien de pire que de semer le trouble dans les esprits.
Il y a un moment qui l'esprit.
Quelle honte!
Il faut profiter du fait qu'il y a un moment qui laisse la tête dans le sable pour leur faire des choses qu'on n'oserait pas leur faire si elles n'avaient pas la tête à cet endroit-là.
Il y a un moment qui laisse semer le trouble dans les esprits.
Alors, oui,
rien,
je crois.
Rien n'a pris cette
année. Là, je vous trouve un peu optimiste parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont plus aucun trouble dans leur esprit.
Oui, d'accord, si vous voulez. Enfin, en tout cas, c'est pas le lieu pour en parler, mais je vous en parlerai, moi, de ce prêtre.
Serge, comme la plupart des... Serge, comme la plupart des auditeurs pensent que je suis votre bras gauche, je vais devant eux. Donc, vous rappelez qu'on a, je crois, encore deux invités et que nous avons également prévu de dire un mot en faveur de votre propre journal ainsi qu'en faveur de l'Union Sacrée.
Oui, oui, mais je voudrais bien que l'un de nos invités vienne tout de suite. Non, pas deux invités, un seul, mon cher ami.
Un seul. Alors, peut-être que...
Est-ce que monsieur Delière peut venir nous rejoindre?
Alors, c'est le moment que, pendant lequel j'interjette la promotion du livre journal.
Interjeter, mon ami.
Alors, ça nous ramène au sujet que nous avions abordé tout à l'heure avec Yves Le Gallou, puisque un grand sujet d'actualité ces derniers jours, à la une du Figaro le 21 avril, à la une du Parisien dimanche le 23 avril, et tous les quarts d'heure sur France Info pendant tout le dimanche, c'était l'infiltration islamiste à Roissy à la suite de l'annonce du livre de Philippe de Villiers intitulé Les mosquées de Roissy qui doit paraître pas plus tard que demain. Or, il nous est absolument impossible de ne pas relever que le sujet et même parfois la lettre exact, précise, mot à mot du livre de Philippe de Villiers se trouvait dans notre modeste petit décadaire imprimé Le Libre Journal il y a maintenant 2 ans et demi. Alors, ça a quand même une signification qui est grave pour ce qu'on continue à appeler la démocratie, pour ce qu'on continue à appeler la liberté de la presse. Si, il y a 2 ans et demi, nous signalons quelque chose d'aussi terrifiant que la présence de dizaines et de dizaines d'islamistes, on parle maintenant de 52 mosquées à Roissy, et que on y donne écho nous-mêmes sur cette radio, ça rebondit dans Rivarol, qui est lui aussi un journal à quelques milliers d'exemplaires, et ça s'arrête là pendant 2 ans et demi. Une question, des révélations aussi graves sont enterrées pendant 2 ans et demi, jusqu'à ce qu'une personnalité politique de premier plan, monsieur de Villiers, décide tout seul de reprendre ça à son compte. Et alors, il est agonie d'injures et les contredit. Par exemple, sur France Info, c'était tous les quarts d'heure. Je suis resté sur France Info presque tout dimanche, et tous les quarts d'heure, on lui opposait des démentis plus définitifs et plus verticaux les uns que les autres. Et c'était également, d'ailleurs, le sujet de l'article à la une du Parisien dimanche. La vérité sur l'infiltration islamiste à Roissy, non, tout va bien, il se passe rien. Circuler, braves gens, tout va bien. Alors, je voudrais, c'est fait, attirer l'attention des auditeurs sur le fait que notre petit journal, qui comporte 2 permanents et demi et quelques dizaines de permanents bénévoles, peut sortir des scoops 2 ans et demi avant Philippe de Villiers, avant la grosse presse, et mérite donc peut-être de retenir leur attention et d'attirer leur abonnement. J'ajoute, et j'en aurais fini, que le numéro 377 que j'ai sous les yeux rappelle naturellement les faits que je viens d'évoquer, et qu'il se contente de quelques lignes d'une très brève citation de Jeanne d'Arc pour intervenir dans un autre débat politique de premier plan. Je pense à l'appel qu'il y a 15 jours, je crois, Jean-Marie Le Pen a lancé à ses concurrents de la droite nationale, à la main qu'il leur a tendue, en leur proposant de réaliser un accord pour une candidature unique, la sienne, et pourquoi pas, il est manifestement le mieux placé à la présidentielle, qui serait assorti de candidatures, d'une répartition des circonscriptions entre, je suppose, le MNF, le MNR et le Front National pour les législatives qui suivraient. Je crois que nous ne sommes pas les seuls dans notre candeur à avoir été émus, à avoir été intéressés par cette proposition, ni les seuls à avoir été, disons, un peu choqués quand Philippe de Villiers a répondu « Cette déclaration est une preuve de faiblesse ». Et voilà maintenant que nous lisons dans l'Express, dans Le Point du 20 avril, cette déclaration de Jean-Marie Le Pen, la main que je tends à Philippe de Villiers, que peut-il en faire à part la lécher ? Alors, moi, je suis
Je dis pas moi d'ailleurs, nous, je pense qu'il y a des centaines de milliers de gens à l'écoute qui partagent mon sentiment. Je suis ravi pour Philippe de Villiers et pour Jean-Marie Le Pen que cette perspective d'union nationale et donc la perspective de sortir, de restaurer l'État, de remettre la France sur ses pieds les amuse. Mais nous, les naïfs, nous qui croyons encore dans notre pays, ça ne nous amuse pas du tout. Alors, nous faisons seulement trois lignes avec ces questions à la une du Libre Journal. C'est une citation de Jeanne d'Arc. Pardonnez l'un à l'autre de bon cœur, entièrement, ainsi que doit faire loyaux chrétiens. Et s'il vous plaît à guerroyer, si allez sur les Sarrasins. Jeanne d'Arc a adressé cette lettre. Elle avait une photocopieuse sans doute parce qu'elle l'a adressée au roi de France et au duc de Bourgogne au XVe siècle. Et je ne crois pas qu'elle rigolait beaucoup plus que moi. Donc, je donne les références du Libre Journal. Si j'ai convaincu quelques auditeurs de nous aider à faire sortir la vérité, même si ça nous prend 2 ans et demi, comme dans cette affaire d'islamistes à Roissy, et je terminerai en lançant un appel pour le 1er mai. Donc, si on veut se procurer ce numéro 377 du Libre Journal, c'est 5 € ou un carnet de timbre. Si on se décide enfin à s'abonner, c'est 110 €, à l'ordre de SDB, 4 place Franceli, 75010, Paris. On feuillette gratuitement notre collection sur francecourtoise.info. Une dernière chose. Ces gens qui par centaines me disent « Ah, je vais peut-être m'abonner, mais qu'est-ce que ma concierge va en penser ?» etc., etc. Ou qui me disent « Ah là là, vous avez vu ce bazar dans les banlieues, le CPE, les émeutes, les blanches traînées par les cheveux, piétinées sur la place des Invalides. » Ou ceux qui m'abordent encore récemment, il y a quelques jours, on m'interpelle par mon nom dans un bar et on me dit « Alors, l'Union Nationale, l'Union Sacrée, quand est-ce qu'ils vont se mettre d'accord ?» Moi, je leur dis la chose suivante. Je n'ai pas ma carte au Front National. Serge, je crois que vous ne l'avez pas non plus, et Serge non plus. Mais je serai le 1er mai au défilé du Front National.
Oui, là, non, même pas.
Les gens qui en ont assez, les gens qui grognent, les gens qui râlent, qui nous envoient des messages, qui nous engueulent parfois, je leur dis, dimanche, il fera beau. Il fera beau, c'est le printemps, les Allemands sont partis, nous avons des centaines d'amis qui viennent d'Italie, qui passent la nuit dans des autobus pour venir de Marseille, de Rennes, de Strasbourg. Alors, les gens de Paris, de la région parisienne qui nous écoutent, je leur demande, Serge, vous m'avez demandé de rester poli, alors je leur dis poliment, sortez-vous, n'ayez pas peur, sortez-vous, et que vous ayez votre carte au front ou pas, venez lundi 1er mai à 9h30 place Saint-Augustin, métro Saint-Augustin, pour prendre part à ce défilé. Emparez-vous de cette occasion d'exprimer vos sentiments patriotiques, que nous soyons un peu plus nombreux que l'année dernière, et que les dirigeants de la droite nationale, aussi bien que les traîtres qui sont au pouvoir, comprennent que maintenant ça commence à suffire, et que le peuple de droite, comme nous appelle Marianne, est dans la rue, qu'il n'a pas peur ni de sa concierge, ni de son facteur, qu'il est dans la rue et qu'il en a assez, et qu'il va mettre un terme à la gabegie présente. Excusez mon exaltation.
Mais c'est très bien, je suis très content. Parce que
n'ayez pas peur.
Vous avez le ton qu'il faut, et puis en plus, ça fait plaisir de voir.
Oui.
Hein. On dit que c'est pas au couvertier à porter la bannière, mais il faut reconnaître quand même qu'il la porte bien. Vous y serez, vous, Michel Delière, au défilé du 1er mai, comme toujours. Alors, faites-nous un petit point de l'activité de votre association qui s'appelle le Néo-Paysan de Tradition.
Voilà, dont l'adresse est la suivante. Le Refuge, 77 540 Bernay-en-Brie, et le téléphone 01 64 25 61 57. Alors, pour ce qui concerne le mouvement Néo-Paysan de Tradition...
Il y a une grande nouvelle, quand même, c'est que...
Il n'y a pas de nouvelle.
Oh, bah, quand même, la visite à Saint-Laurent, c'est pas rien, ça.
Attendez, on parle de quoi, là?
Des activités de l'association, projets, de l'avance.
Nous y allons. Alors, tout se base tout d'abord sur le voyage que j'ai fait à Saint-Laurent à la fin du mois de mars, et qui m'a permis de découvrir un site extraordinaire et surtout un accueil particulièrement chaleureux, les bras ouverts du Père Avril. Le Père Avril a fondé ce mouvement qui s'appelle l'œuvre de Notre-Dame de Saint-Laurent, et qui est à la suite d'une œuvre primitive qui avait été fondée en 1949 en Algérie. En 1957, donc c'est la révolution algérienne qui commence, le soulèvement, et les Félaga chassent l'œuvre de Notre-Dame du Père Avril de l'endroit où elle se trouvait, c'est-à-dire en Algérie. Bien. En 1962, c'est l'exode, et les Félaga chassent, comme vous le savez, les Harkis. Le Père Avril s'intéresse, non pas à tous les Harkis, puisqu'il y en avait beaucoup, mais tous ceux qu'il a pu recueillir, et surtout les enfants, et il les emmène en France, à Salérance, où il existait déjà un poste avancé l'œuvre algérienne l'évêque du lieu. Bon. En 1970, il fonde une école primaire, puis une école secondaire, et puis alors les petits Harkis grandissent. Le Père Avril évangélise les Harkis, il donne 200 baptêmes. C'est pour vous dire qu'il s'est occupé sérieusement de la question de l'évangélisation des Harkis. Ces enfants grandissent, et puis une fois qu'ils sont grands, ben, ils quittent l'œuvre, mais à ce moment-là, que se passe-t-il? C'est la tragédie au Liban, en 1991, donc quand même 30 ans après. Alors, ils fondent à Assia, dans la montagne, une œuvre qui s'appelle l'œuvre de l'Ave Maria, dont le but est de venir d'évangéliser les jeunes Libanais face à la montée de l'islam. Du reste, il a écrit une œuvre que j'ai ici, parce que il a une nombreuse œuvre apologétique. Et voici l'ouvrage que je vous offre et qu'il a écrit et qui est tout à fait significatif. C'est un petit peu à la suite de l'intervention de Patrick Goffman l'aéroport de Roissy. Ça, c'est intitulé « L'engloutissement des chrétiens par l'islam ». Voilà.
Merci.
Tout à fait intéressant. Alors, les personnes qui veulent se le procurer, écrivent au refuge en m'envoyant 15 timbres à 048. Bien, aujourd'hui, Salérance est installée, c'est une œuvre importante, sur un territoire de 150 hectares. Il y a, c'est montagneux, c'est à 800 mètres d'altitude, se trouve une grande chapelle magnifique, une hôtellerie, une ferme, une école importante et des maisons d'habitation, dont celle du Père Avril. Bien. La ferme fonctionnait très bien, il y avait 150 caprins et ovins, donc des moutons et des chèvres, et cela fonctionnait à l'époque parce qu'il y avait du personnel, puisqu'il y avait les arts qui étaient là, ou les jeunes arts qui étaient là, puis les séminaristes, tout cela fonctionnait et il y avait une espèce d'autosuffisance. Mais avec le temps, il s'est produit une déshérence de l'œuvre et toute la partie ferme est tombée en désuétude et ne fonctionne plus. Alors moi j'arrive là et je dis je cherche une ferme. Bon, alors naturellement, il m'a que les bras ouverts et il me dit voilà, bah, écoutez, c'est à vous. Occupez-vous-en. Bon, alors j'ai dit d'accord, c'est parfait. Donc, il n'est pas nécessaire d'acheter un terrain, il n'est pas nécessaire de passer par les administrations, il n'est pas nécessaire de faire des dépenses importantes. Nous avons là une place qui nous est offerte. Bien. Maintenant, le Père Avril, il faut en parler un petit peu, c'est un prêtre tout à fait extraordinaire. Lui, c'est la foi, c'est Notre-Dame, c'est vraiment un enfant de Marie. Et il est très aimé, très aimé. Il n'a pas besoin de commander, tout le monde, tout fonctionne comme ça, naturellement, parce que il a un tel charisme qu'il n'a pas besoin de donner d'ordre. Tout fonctionne, tout baigne dans l'huile.
Un peu dans mon genre, quoi.
Hein? Il a naturellement un intendant qui ne veut pas s'appeler intendant, mais qui est comptable, qui est en fait intendant, monsieur Nahon, et qui s'en occupe très très bien, et tous les bâtiments, tout est bien administré, tout est solide, tout est bien entretenu. Il y a une partie maintenant qui est abandonnée, c'est la partie agricole qui a été abandonnée. Il y a donc quelques outils agricoles qui traînent par-ci et par-là. Donc ça demande à s'en occuper. Bien. Alors, quand je suis arrivé là, moi, mon idée, comme vous le savez, c'est la fondation d'un village traditionnel catholique. C'est un retour à la terre en Dieu. C'est le but de l'association. Bien. Et quand j'ai visité cette école qui était là, ça m'a donné l'idée tout simplement de créer, en même temps que d'ameuter des familles catholiques qui veulent retourner à la terre, c'est de créer un centre de formation agrobiologique. Alors, vous me direz, mais pourquoi, vous n'avez pas posé la question, mais vous pourriez peut-être me la poser, pourquoi la montagne? Alors, pourquoi la montagne? Eh bien...
Ça m'est même pas venu à l'idée, parce que ça me paraît assez évident que c'est à la montagne qu'on peut faire le mieux ce genre de choses. C'est pas du côté de Saint-Tropez, évidemment.
Alors, voilà ce que dit, à ce sujet-là, Pie XII. Soyez docile à la leçon de la montagne. C'est une leçon d'élévation spirituelle, une leçon d'énergie encore plus morale que physique. L'homme ordinaire aime demeurer au ras de la terre. Vous, au contraire, vous aspirez à monter toujours plus haut, à la force des muscles, c'est vrai, mais ce désir ardent des hauteurs est au fond de votre cœur l'écho d'un besoin d'élévation de l'esprit, du cœur, de l'âme.
Plus je dis, plus je trouve que Pie XII, c'est quand même pas mal. Hein.
Oui, on a raison d'en parler.
Bien, alors, je termine ce passage-là en disant pourquoi la montagne. D'abord, il y a une première idée, une première vocation, c'est la vocation religieuse, qui était indiquée par Pie XII. Ensuite, c'est la santé, c'est le bon air. Et troisièmement, dans les temps plus ou moins dangereux qui circulent actuellement un petit peu partout, là, c'est aussi la sécurité. Parce qu'on est loin, d'être au bout.
Alors, Michel, comme toujours dans cette émission, on est en retard, donc ce que je vais vous dire, c'est que vous allez revenir la prochaine fois,
oui,
et on va développer la suite, parce que ça commence à prendre forme, et ça devient vraiment intéressant maintenant. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de rappeler l'adresse du refuge pour qu'on puisse vous contacter, parce que là, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de naître, et j'aimerais bien qu'on approfondisse cette chose-là la prochaine fois. Donc, donnez-nous l'adresse du refuge où on peut vous écrire pour en savoir plus sur ce qu'on va appeler pour l'instant le projet Salran. Et vous revenez dans la prochaine émission où on vous donnera un peu plus de temps pour aller plus loin dans l'exposé de vos projets.
Bien. Alors, le mouvement néo-paysan de tradition. Le refuge, c'est mon adresse, 77 540 Bernay-en-Brie, Bernay, B-E-R-N-A-Y, en Brie comme le fromage, et le téléphone 01 64 25 61 57 le matin, de préférence, parce que l'après-midi je me livre aux travaux agricoles. Alors pour m'avoir, c'est le 01 64 25 61 57 le matin, sauf le dimanche, parce que le dimanche matin je vais
à la messe. Allez hop.
Merci, avant Michel. Avant la coupure, je dis vite, une enseignante d'histoire et de géographie a emmené ses élèves de seconde à la visite de Versailles. Elles ont été enthousiasmées et ils ont ensuite emmené leurs parents refaire cette visite. Merci monsieur Berthelin.
C'est les petits,
je m'en souviens bien.
Merci Vincent, merci Michel. La parole est aux jeunes de la vieille Europe. Bonne semaine. Je vais prendre quelques jours de vacances et à bientôt. Donc, que Dieu nous garde.
L'émission de Serge de Becketch. Avant la deuxième partie, Monsieur Philippe Prévost fera une conférence samedi 29 avril sur l'origine de la tragédie palestinienne au Temple du Luxembourg, 58 rue Madame à 15h. Alors, pour le, on a parlé du défilé du 1er mai, naturellement, c'est lundi, hein, c'est pas dimanche. Et les ronchons nous signalent qu'ils sont très contents qu'on ait parlé d'eux, mais qu'ils seront fermés le 1er mai. Alors, ils ont la gentillesse d'envoyer une adresse supplémentaire. C'est Ristorante Fellini, 47 rue de l'Arbre Sec, Paris 1er, tout près de Feu la Samaritaine. Les patriotes y seront très bien reçus de 12h à 14h30. Demandez Lionel. La librairie Facta nous signale qu'elle sera exceptionnellement ouverte aussi le lundi 1er mai de 12h à 18h et qu'elle est située 4 rue de Clichy à 5 minutes à pied de l'Opéra. Et vous pouvez éventuellement leur téléphoner au 01 48 74 59 14. C'est la librairie d'Emmanuel Ratier. Alors, vient de paraître « Cavalerie, chant et sonnerie » par le chœur Montjoie Saint-Denis. Ce volume comprend un livret de 44 pages avec les paroles de tous les chants, des notices historiques, des illustrations, une préface du général Hervé Gobillard, gouverneur des Invalides, et un disque compact de 67 minutes. Donc il est vendu chez Valérie 18 euros, ou sur commande avec en plus 4 euros de port, au chœur Montjoie Saint-Denis, chez Valérie, 21 rue Campagne Première, Paris 14e. Site www.coeur-montjoie.com. Ensuite, une messe pour Marie-France Tirbois sera célébrée à 15h le 1er mai à Saint-Nicolas-du-Chardonnay.
Par l'abbé
Schaeffer. Et puis, le jeudi 4 mai à 20h, 70 boulevard Saint-Germain, centre Charlier, métro Maubert Mutualité, débat-conférence de Frédéric Pichon, avocat européjantès, et Pierre Hillard, quelle France et dans quelle Europe ? Entrée libre. Ensuite, Roger Martineau chantera au parloir du Colombier, 9 rue du Vieux Colombier, Paris 6e, le vendredi 5 mai à 20h. Et enfin, dimanche 14 mai, la fête nationale de Jeanne d'Arc, rassemblement à Paris à 9h30, rassemblement d'Action française à Paris à 9h30, à l'angle de la rue Royale et de la rue Saint-Honoré. Merci, messieurs, je vous quitte. Au revoir, chers auditeurs.
Bonsoir chers auditeurs, ravi de vous retrouver pour ce volet des chroniques de la vieille Europe hébergé au cœur du libre journal de Serge de Bekech sur Radio Courtoisie. Comme chaque soir, autour de la table, Grégoire Gambier, journaliste, Patrick PL, journaliste également qui animera plus particulièrement notre troisième partie. Une première partie comme d'habitude consacrée à diverses brèves géopolitiques européennes. On va parler beaucoup d'énergie aujourd'hui. Une deuxième demi-heure autour consacrée à l'invité que nous vous présenterons tout à l'heure, et donc je l'ai dit, la troisième demi-heure qui sera davantage culturelle. Alors, dans les, j'ai dit qu'on allait parler d'énergie. Le premier sujet, peut-être avant de parler géopolitique, une actualité franco-française plus que brûlante. Grégoire Gambier, que vous avez relevé.
Oui, nous, à défaut d'énergie, nous allons nous intéresser aux transports. Plus exactement à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Vous savez que cette plateforme aéroportuaire est ô combien dans l'actualité, grâce, il faut bien le dire, au dernier ouvrage de Philippe de Villiers. Tout simplement pour vous signaler que vous connaissez la polémique qui a commencé à être engagée entre les services de police d'une part, donc c'est-à-dire le gouvernement, le ministère de l'Intérieur et le député européen. Guérin, président du Conseil Général de Vendée, sur l'authenticité d'une note DRG. Bon, tout ceci est un petit peu ridicule, et donc le Figaro, aujourd'hui même, a retrouvé le rapport du contrôleur général Jean-Yves Taupin, qui était le directeur de la PAF, sur la problématique de l'islam radical sur la plateforme aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle, justement. Ce document, qui était daté de juin 2005, va bien au-delà de ce qu'a pu écrire Philippe de Villiers. Donc c'est assez amusant de voir que le contrefeu médiatique qu'a tenté de monter Nicolas Sarkozy, qui pourtant généralement s'y connaît, s'effondre de lui-même. Philippe de Villiers, ne serait-ce qu'en raison des lois qui existent en France, était visiblement assez en deçà de la réalité de ce qui se passe dans la plupart des entreprises de la plateforme de Roissy. Voilà, donc c'est un sujet sécuritaire s'il en est. Xavier Van Lierd, vous vouliez rajouter quelque chose?
Peut-être en position, parce que je viens d'arriver, mais ce qui me semble un petit peu, peut-être l'avez-vous déjà dit, ce qui me semble un petit peu consternant dans cette affaire, c'est que le débat lancé par M. de Villiers est celui d'un consultant qui fera un audit de sûreté et de sécurité, et pas du tout, il ne lance pas une question politique au sens propre du terme. Et le débat qui se déroule tout autour de ça, je trouve, n'est pas au niveau des enjeux posés par l'islamisme et par l'islam à plus forte raison. C'est-à-dire que tout le débat s'organise autour de mesures techniques, autour d'une plateforme aéroportuaire. C'est certes une question intéressante, mais voir le débat à la présidentielle s'engager sur des sujets aussi précis, aussi techniques, me laisse un petit peu pantois. Et en tout cas, ça me semble vraiment bien dans ça des enjeux et des véritables questions.
Vous préférez sans doute le discours anti-technique de ce Ségolène Royal, autre candidate à la présidentielle, puisque lui, pour le coup, il évite de tout argumentaire et d'ailleurs de tout sens. Mais je suis d'accord, mais on parle pas...
L'un comme l'autre,
la campagne présidentielle qui nous intéresse.
L'un comme l'autre joue en dehors, en deçà du niveau qui doit être celui d'une véritable campagne présidentielle. Alors, même si nous, on l'a pas abordé sous cet angle-là, Philippe de Villiers sort ce livre-là comme le point de départ de sa campagne présidentielle.
De toute façon, je pense que
de son nouveau positionnement, mais son positionnement, et on lit ici ou là à la suite de ce livre que Philippe de Villiers veut chasser sur les terres de la droite nationale et autres. Non, je ne pense pas. Il est dans un débat technique avec avec le premier flic de France auquel il voudrait lui ravir sa place.
Oui, voilà. Si ce n'est que c'est une partie de son positionnement, vous le savez bien, Xavier Van Lierd, c'est au moins autant vis-à-vis de Nicolas Sarkozy que du lepénisme sous toutes ses facettes, hein, qu'il se positionne. Mais donc, puisque vous parlez de la campagne présidentielle...
De toute façon, je crois que pour vous mettre d'accord, on dira, et on a longtemps parlé ici de la tyrannie médiatique, on voit bien qu'une fois de plus, le positionnement qui compte, c'est celui qui consiste à épouser les thèses acceptables par la tyrannie médiatique, le dernier en date étant la stupéfiante déclaration de Jean-Marie Le Pen d'aujourd'hui ou d'hier, annonçant décidément que Zinedine Zidane était un très grand Français et quelqu'un auprès duquel il fallait prendre exemple par la dignité de son courage politique, de son courage, et notamment celui de s'arrêter à temps. Alors un journaliste malicieux qui disait à Le Pen, mais en parlant de s'arrêter à temps, est-ce que vous vous sentez pas un peu concerné? Il a dit non, parce que les muscles du cerveau durent beaucoup plus longtemps que les muscles des cuisses. Fermez le banc et fermons cette parenthèse franco-française. Je voulais revenir sur, puisqu'après tout, nous sommes dans les chroniques de la vieille Europe, et donc sur les enjeux importants autour de l'énergie. Nos auditeurs qui sont studieux et attentifs savent que dans quelques jours se tiendra le G8. Le G8, donc, qui est le rassemblement des chefs d'État des 8 pays les plus industrialisés au monde. Pour être plus précis, il s'agit des 7 pays les plus industrialisés au monde, plus la Russie, puisque la Russie bénéficie d'un statut d'exception dans cette enceinte, que le G8 sera d'ailleurs présidé cette année par la Russie de Vladimir Poutine, et que le G8 se tiendra à Saint-Pétersbourg. L'enjeu majeur de ce G8, c'est la question énergétique. C'est la question énergétique à double titre. Le premier, c'est tout simplement parce que l'ensemble des pays industrialisés sont bien obligés de faire face à la raréfaction attendue des ressources pétrolières ou tout au plus des différentes capacités de raffinage des ressources pétrolières en question, avec notamment un engouement fort sur le gaz. Et au-delà de la répartition des ressources, c'est le rôle de la Russie qui est interrogée à l'occasion de ce G8. Le rôle de la Russie qui balance, comme d'habitude, entre un positionnement occidental, c'est-à-dire je vais servir principalement mes clients européens auxquels je n'ai jamais fait défaut, même pendant la guerre froide, ou alors est-ce que j'oriente mes ressources vers l'Extrême-Orient, notamment chinois et marginalement japonais, qui sont très gros consommateurs de pétrole et qui sont dépourvus eux aussi de ressources. Et donc on voit monter, depuis notamment les événements du 1er janvier dernier, où vous le savez, pour des raisons politiques et de souveraineté, la Russie a été obligée de faire rendre gorge aux voleurs ukrainiens sur qui siphonnaient les gazoducs, et donc de mettre en péril par conséquence l'approvisionnement d'un certain nombre de pays d'Europe de l'Est. Depuis cet événement-là, la Russie est attaquée sous prétexte qu'elle devrait, contre vents et marées, assurer l'approvisionnement des pays occidentaux et quasiment les choisir au détriment d'autres. Moyennant quoi, la Russie répond qu'elle est prête à toutes les orientations commerciales possibles. Encore faut-il que ce choix commercial, de priorité commerciale, soit payé en retour de dividendes politiques. Dividendes politiques qu'elle n'a pour l'instant pas reçus, tant on voit que l'Occident continue à la soutenir, c'est-à-dire l'axe atlantiste continue à soutenir la Géorgie qui bloque l'adhésion à l'OMC de la Russie. Quand on voit les protestations systématiques des Pays-Bas dès que la Russie lève le petit doigt. Et donc, une fois de plus, et comme nous l'avons dit à de nombreuses reprises, l'intransigeance européenne et le tropisme atlantiste européen risquent de repousser la Russie dans des endroits ou dans des postures commerciales que l'on ne souhaitait pas. Alors, est-ce que c'est bien ce qui va se passer? Pour l'instant, tout laisse croire que les enjeux sont encore ouverts. Gazprom, qui est le bras armé de la Russie, monte le ton sur le sujet. Une bonne nouvelle, c'est la volonté des Pays-Bas de participer au gazoduc nord-européen qui avait tant fait couler d'encre chez les Baltes et les Polonais, toujours prêts à couiner dès que les Allemands et les Russes font quelque chose ensemble. Alors le vice-premier ministre néerlandais a dit, écoutez, je comprends pas que les Pays-Baltes et la Pologne considèrent que ça nuise à leurs intérêts. Donc voilà quelqu'un qui remet les enjeux là où ils sont.
Autant le Polonais queen, mais le Balte, je ne me souviens pas.
Mais les Baltes ne sont pas très nombreux, donc quand ils queen, ça fait moins de bruit, mais je vous assure qu'ils queen. D'ailleurs, amusant, tiens, puisqu'on parle des Baltes, sachez que ça vous a pas échappé, vous qui êtes un observateur vigilant, mais la scène politique lituanienne est en émoi, puisque le président du Parlement a dû présenter sa démission suite à une crise politique grave, et il se trouve que c'était le parangon, le héros de la lutte anti-russe, et donc voilà un atlantiste diplômé qui a quitté sa chaise et on ne le pleurera pas. Xavier Van Lierde, vous qui suivez l'actualité énergétique, vous avez certainement des compléments, voire des corrections à apporter au long tunnel que je viens de développer pour nos auditeurs.
Oui, j'ai un complément, je suis globalement d'accord avec vous. Il y a un aspect qui me semble intéressant, c'est que l'une des exigences russes, c'est que l'on maintienne des contrats à long terme. Or, il se trouve que cette excellente commission européenne, elle, souhaite qu'il n'y ait plus que des contrats à court terme pour qu'en quelque sorte, sur le marché de l'énergie, il y ait une concurrence et une remise en cause permanente des accords et que donc la dimension politique de ces accords soit amoindrie. Mais la conséquence est la suivante, c'est que cette politique de concurrence à outrance, eh bien, fragilise les politiques d'investissement parce que pour investir dans un gazoduc ou dans un champ gazier, eh bien, il faut avoir l'assurance de pouvoir le rentabiliser avec un contrat dont les prix ont été fixés bien à l'avance et sur une longue période. Donc, au moment même où on explique que pour assurer l'approvisionnement en énergie de l'Europe et de la planète, il est nécessaire d'explorer de nouveaux champs gaziers ou pétroliers, de démultiplier les investissements, eh bien, on met en œuvre une politique idéologique qui va exactement à l'encontre de cette politique. Deuxième observation et qui est liée, c'est que on nous explique que ce gazoduc nord-européen est extrêmement préjudiciable à la sécurité énergétique européenne, en ce sens où il accroîtrait la dépendance de l'Europe à l'égard de la Russie. Ça me semble une vision fausse. Ce gazoduc constitue un investissement considérable, certes pour les pays acheteurs de gaz, mais également pour le producteur. Dès lors qu'il aura été construit, on aura donc la certitude que ceux-là même qui ont investi dans ce gazoduc voudront le rentabiliser en l'utilisant et en vendant du gaz qui passe par celui-ci. Ce projet, donc, nous assure la certitude que les Russes voudront l'utiliser et donc sécurise nos approvisionnements énergétiques. Toute cette affaire est lamentable depuis le début puisqu'on essaie de nous faire croire qu'avoir à ses portes le premier producteur mondial de gaz et le troisième de pétrole, c'est un danger pour notre sécurité énergétique. Stéphane,
au passage, pour rappeler à nos auditeurs que le gazoduc nord-européen, qu'est-ce que c'est ? C'est un gazoduc qui part directement des rives de la Russie, qui emprunte le sol de la Baltique et qui se déverse sur les côtes de Frise allemande. Et donc, ce serait le premier gazoduc qui ne passerait pas par des pays qui étaient l'Union soviétique avant et ou ses satellites et qui maintenant sont en opposition avec Moscou, que sont l'Ukraine, la Biélorussie. Enfin, c'est encore à débattre, mais surtout les Pays-Baltes ou la Pologne.
Absolument, ce qui signifie que ça mettrait le trajet emprunté mettrait l'arrivée de gaz russe à l'abri des pressions politiques de l'Ukraine, de la Géorgie et d'autres.
Et indépendamment du fait que ça en abaisse le coût, puisqu'il y a un coût de transit qui est prélevé, quand c'est pas du gaz ou du pétrole directement, il y a un coût de transit qui est fixé par les pays traversés. Et c'est extraordinaire, c'est que alors que partout on prône une libéralisation, la libéralisation ce n'est jamais que la fixation d'un prix entre un acheteur et un vendeur, et qu'on veuille maintenir des droits de douane et de passage, et que des pays qui disent bah voilà, la Russie choisit de passer par ailleurs que chez moi, c'est scandaleux, elle doit passer par chez moi, sinon je considère que mes intérêts sont battus en brèche et que tout le monde trouve ça tout à fait normal.
Ouais, que les Ukrainiens disent ça, limite c'est normal, ils défendent leurs intérêts, mais que nous considérions que notre intérêt c'est que les Ukrainiens puissent nous prendre en otage, c'est profondément, enfin c'est confondant. En revanche, sur cette même question, je crois qu'on avait déjà évoqué cet aspect des choses lors d'une précédente émission, mais c'est un point tellement capital que je voudrais y revenir, c'est que ce qui menace l'approvisionnement énergétique de l'Europe et la sécurité énergétique de l'Europe, ce n'est pas la volonté des Russes de nous vendre leur gaz, ils ont un besoin impérieux de nous vendre leur gaz, c'est la perspective de les voir être obligés, en raison de leur taux de croissance très important en interne sur leur marché domestique, de devoir assez rapidement consommer la totalité de l'énergie qu'ils sont capables aujourd'hui de produire pour assurer l'approvisionnement de leur marché intérieur. Ce qui signifie que pour sécuriser l'approvisionnement énergétique de l'Europe, il faut absolument que l'Union européenne, les pays d'Europe, investissent massivement en Russie, et pourquoi pas à travers un partenariat stratégique pour améliorer l'efficacité énergétique russe. Puisque pour permettre un point de croissance, la Russie consomme aujourd'hui 5 fois plus d'énergie qu'il n'en faut au pays, à la France par exemple. La Russie a un taux de croissance de 5% par an, c'est assez simple, voilà, en l'espace d'une vingtaine d'années, si leur capacité de production reste identique, ils ne seront plus en mesure d'exporter.
Alors, on pourrait vous objecter le raisonnement que la piste, c'est plutôt de jouer la sécurité et de freiner le développement économique de la Russie. Et donc de marginaliser la Russie, par exemple en l'empêchant d'entrer à l'OMC, par exemple en essayant de brider par tous les moyens possibles sa croissance.
On peut objecter cela.
De la même manière que certains disaient que le mur de Berlin aurait mieux fait de rester debout, ça nous aurait empêché le retour d'une Allemagne puissante en Europe.
Oui, si l'on considère que nous sommes suffisamment puissants pour pouvoir décider du sort de la Russie à sa place, et suffisamment aveugle pour ne pas constater que la Russie est maintenant un acteur autonome. Enfin, je lisais le Financial Times cette semaine, le titre c'était Resurgent Russia, un pays confiant, sûr de lui sur la scène internationale. C'est une réalité, prenons-en acte. La question maintenant, c'est de savoir, est-ce qu'on veut en faire un partenaire, est-ce qu'on veut construire avec lui une grande puissance continentale, ou est-ce qu'on veut en faire un adversaire ou un concurrent. Je crois que la réponse à cette question coule de source.
Grégoire Gambier.
Oui, bah, on va changer de sujet.
Oui, pour changer de sujet. C'est pour ça.
C'est dommage, hein,
parce que merci.
J'ai bien vu que sur ce sujet-là, vous étiez replié tactiquement.
Oh, il y a des grands spécialistes et des amoureux de la Russie autour de cette table, donc je leur laisse le monopole du cœur à cette occasion très volontiers. Je vais reparler de l'Angleterre. Ça faisait longtemps. Parmi nos grands sentiments, simplement pour vous signaler, hein, c'est à la fois une anecdote, mais c'est très révélateur, qu'une commission d'enquête de l'armée britannique venait de préconiser la création d'un service d'appui psychologique aux nouvelles recrues. Donc, pourquoi pas, vous me direz, mais en fait, l'appui psychologique, c'est pour faire en sorte que leur individualisme, ils se sont rendus compte que les nouvelles recrues britanniques, en l'espèce, étaient trop individualistes pour spontanément s'accorder avec les rigueurs et les joies de la vie de garnison. Donc, c'est amusant, il y en aura sans doute prochainement en France aussi, hein, quand on voit
je croyais que c'était pour les soldats qui étaient partis en Irak.
Non, c'est pour les nouveaux, c'est pour ceux qui vont y aller et qui le savent pas encore. Au-delà d'anecdotes, c'est quand même assez révélateur, puisqu'on voit bien les limites des positionnements relatifs à la puissance européenne, donc ou à la puissance des différentes nations européennes, puisque au-delà du discours et de la posture, il y a la réalité. Et la réalité, c'est non seulement des économies qui fonctionnent au ralenti quand l'ensemble de la planète se développe. Vous avez parlé de la Russie, mais donc la zone euro est quand même largement, l'Allemagne mise à part, en panne. Et au-delà de ces économies, c'est aussi des peuples, des sociétés qui sont encore hédonistes, qui refusent, qui sont imperméables au discours de puissance, tout simplement, parce qu'ils sont encore dans le discours de la consommation et de la jouissance. Donc, c'était un peu pour souligner ce fait, mais et en espérant bien sûr que ça change, ne serait-ce que parce que les faits qui sont têtus vont bien obliger à un retour de bâton dans cette affaire.
Ouais, ce qui serait intéressant, c'est que depuis pas mal d'années, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, même en France, il faudrait expliquer quand même qu'aux nouvelles recrues, parce que vu la publicité que fait l'armée autour d'elle, que l'armée s'est fait quand même pour faire la guerre. Et quand on voit les campagnes publicitaires, que ça soit aux États-Unis, même en France, sur l'armée, c'est plus en fait une façon d'apprendre un métier. Tranquillement, de se réinsérer dans la société.
C'est un lieu de convivialité.
Mais c'est vrai que la mission de l'armée, on ne leur explique plus. Donc effectivement, ces gens-là, le jour où ils rentrent à l'armée, en plus en Angleterre, où ils vont être bientôt obligés d'aller en Irak, et je trouve ça tout à fait normal qu'ils fassent une cellule de psychologie pour leur expliquer que ça ne va pas être simplement un métier.
Alors, puisqu'on parle de projection de force à l'extérieur, il y a un événement qu'il me paraît intéressant de souligner, parce que à ma connaissance, c'est la première fois et je pense que ce ne sera pas la dernière. Xavier Van Lierde, s'il y a déjà eu un précédent, vous me corrigerez. Mais pour la première fois, l'Inde vient de déployer une base aérienne à l'extérieur de son territoire et elle a pris location au Tadjikistan d'une base aérienne sur laquelle elle a implanté un groupe de 12 MiG-29. Qui fait relativiser le détachement des Sukhoi 25 russes qui sont à Dushanbe, pas très loin. Mais donc c'est la première fois qu'une base indienne est installée à l'étranger, et donc ceci confirme, si l'on en doutait, la volonté de l'Inde de devenir une superpuissance régionale et de s'appliquer une politique militaire indépendante pour préserver là aussi ses propres intérêts géopolitiques. On est bien dans une région qui est une région d'influence russe traditionnelle, mais pour laquelle les États-Unis sont présents, la Chine est en embuscade, le Pakistan aussi, et maintenant l'Inde vient de faire comprendre à tous ses concurrents qu'elle s'intéressait fortement à cette région, et donc voilà un domino de plus dans le stratagème mondial qui est en train de s'installer, et ce qui prouvait une fois de plus, on a déjà eu ces échanges là sur là aussi l'ambivalence des stratégies indiennes, que l'Inde est bien décidée à jouer sa partition, pas forcément très lisible tout le temps, mais bien décidée à jouer sa partition personnelle.
Oui, tout le monde a sa partition, y compris l'Europe, mais nous, la partition sont les droits de l'homme, la merveilleuse altérité de l'autre, et ce genre de discours.
Oui,
Enfin, on a, à propos d'avions et de projection de force, on a fait 2-3 petites choses au Tchad récemment. Donc vous me direz, c'est la politique, les intérêts français deviennent quasiment illisibles en Afrique, dans la zone, l'ex-zone d'influence française. Mais on voit bien qu'il y a encore des velléités d'action. Et là, en l'espèce,
on aura fait les harkis des Américains pour contrer la révolte instrumentalisée par les Chinois.
Tout à fait. Les États-Unis se sont empressés de nous soutenir dans cette affaire, puisque évidemment, il fallait diaboliser le Soudan, qui est dans la liste noire.
Au-delà de ça, il y avait aussi les menaces pesant sur les concessions pétrolières pour lesquelles Sinopec était, donc la compagnie nationale d'État chinoise, était parfaitement engagée. Donc pour nos éditeurs, on va résumer, le Tchad, c'est plus la belle époque de Fayal Arjot et du colonel Archinard. Non, ça devient un champ clos où se battent les compagnies pétrolières américaines face aux compagnies pétrolières chinoises. Et donc les uns et les autres utilisent des cohortes d'affamés avec des sagaies automatiques pour s'entretuer. Et la France fait le juge de paix avec ses mirages qu'elle paye à crédit avec ce déficit budgétaire. Voilà, l'affaire du Tchad résumée. C'est un peu moins excitant que Red, mais Colvézi, mais c'est ça. Reprenez la main, faites quelque chose.
Brièvement résumé, non.
Je regrette que notre ami Olivier Lebrun ne soit pas là, parce que...
Et Jean-Pax Méfray.
Et sans compter Jean-Pax Méfray, bien sûr.
Ce qui prouve que l'armée française ne se bat pas pour des intérêts purement économiques.
Son côté est désintéressé, et on peut saluer cet effort. Grégoire Gambier, vous qui souvent avez été le chantre de l'intelligence économique et des politiques de puissance, le lancement par l'État français avec l'Agence pour l'innovation industrielle des 6 projets phares, alors est-ce que c'est sérieux?
Oui, enfin simplement pour le signaler à nos auditeurs, parce qu'on en avait parlé parmi les pistes effectivement d'action d'une intelligence économique publique, en tout cas en France. Donc cette agence de l'innovation industrielle a été créée. On vient d'apprendre qu'elle accordait 236 millions d'euros à 5 ou 6 projets, on ne sait pas encore, industriels. Donc bon, la première chose évidemment, c'est quand même de s'en réjouir, mais on est toujours dans le discours un peu ambigu. On se réjouit d'un petit pas qui, globalement, quand même, peut refléter une certaine prise de conscience. Mais on ne peut qu'être navré à côté, à la fois par les petits bras accordés, 236 millions, c'est absolument pas à la hauteur des enjeux, et surtout, indépendamment, bon, on peut comprendre que la France, vous en avez parlé, n'avait pas beaucoup de moyens financiers, mais c'est bien la méthode qui ne correspond pas, puisque on parle d'un financement quasi direct public, et d'ailleurs Jacques Chirac est déjà en train de faire le tour des capitales européennes pour essayer de demander d'autres fonds européens pour trouver des projets de dimension européenne, donc soit, mais c'est surtout que ce financement là, c'est le colbertisme à grand-papa. Ce qu'en font les États-Unis depuis des décennies, eux, ils font de la commande publique, c'est-à-dire qu'ils achètent au privé, y compris à des start-up, des produits innovants qui permettent à ces entreprises de se développer normalement, c'est-à-dire en vendant leurs produits. Et c'est un peu différent de la position française, qui est toujours à la fois petit bras et avec des carcans, des raisonnements dépassés.
Vous avez besoin de lire d'un commentaire?
Non, je suis d'accord.
Parfait. Eh bien, écoutez, sur cette note de consensus...
Oui, parce que c'est rare.
Et beau. À la fois, on va clore cette première demi-heure et passer à l'interview de notre invité.
Oui, bonjour. Vous êtes bien sur Radio Courtoisie, donc les chroniques de la vieille Europe hébergées sur le libre journal de Serge Beketch. Pour cette deuxième demi-heure donc consacrée à notre invité, Tancrède Josserand.
Bonsoir.
Bonsoir, merci de votre présence. Vous êtes historien et spécialiste de la Turquie, turcophone, bien sûr, diplômé de Langso aussi. Mais on vous demandera pas, bien sûr, de parler turc, puisque je pense que les auditeurs de Radio Courtoisie seront moyennement séduits. Mais vous êtes aussi, bah oui, je sais bien, mais peut-être pour conclure, vous êtes aussi l'auteur d'un mémoire qui a été remarqué sur les relations franco-turques à l'époque du général de Gaulle, et vous êtes collaborateur notamment de la revue française de géopolitique. Je crois que vous publiez
un article sur les relations franco-turques à l'époque du général de Gaulle.
D'accord, donc dans la revue française de géopolitique qui doit sortir incessamment sous peu. Et mais ce n'est pas pour toutes ces qualités que nous vous avons invité, c'est pour un autre article que vous avez publié dans la Lettre Sentinelle, qui est un périodique d'analyse d'intelligence économique, une lettre de décryptage plus exactement. Donc dans la Lettre Sentinelle, vous avez écrit un article il y a quelque temps pour analyser le succès en librairie d'un, on peut appeler un roman de politique fiction.
Oui, on pourrait dire un Tom Clancy à la turque, pour être plus simple.
Ah oui, c'est beaucoup plus simple.
C'est plus simple.
Bref, c'est Tempête de métal. Alors,
Métal se tourna en turc.
Bon, vous voyez que vous y mettez. Donc simplement, pour nos auditeurs, nous rappeler ce qu'est cet ouvrage et surtout ce qu'il révèle pour l'identité turque actuelle.
Tout d'abord, il faut savoir que cet ouvrage est paru donc l'année dernière, en 2005. Et qu'il a été immédiatement un énorme succès de librairie, plus de 450 000 exemplaires vendus, ce qui dans un pays comme la Turquie est énorme, puisqu'il faut savoir qu'en Turquie, les livres sont réservés quand même à une élite, qu'on lit extrêmement peu, enfin que l'alphabétisation en Turquie, le taux d'alphabétisation est moindre qu'en Irak. Donc pour un pays qui prétend entrer dans l'Union Européenne, c'est assez paradoxal.
Qu'en Irak, avant la guerre.
Que dans l'Irak, oui. Bassiste, exactement.
Oui. Ça comptabilisait pas les GIs.
Voilà. Donc pourquoi ce succès absolument phénoménal? C'est que ce livre, en fait, nous révèle la crise identitaire que traverse ce pays à l'heure actuelle. Donc, pour résumer, globalement, en quelques mots, quel est le sujet de ce livre? Ce roman de politique fiction se passe en 2007, au printemps 2007.
Et Ségolène est élu. Non, c'est pas ça.
Non. Mais par contre, Erdogan est toujours Premier ministre de la Turquie.
Ah.
Et donc, le 27 mai 2007, les États-Unis d'Amérique décident d'envahir la Turquie.
Ah oui, sous quel prétexte?
Sous prétexte que leurs troupes auraient été lâchement agressées par l'armée turque au Kurdistan.
Bon.
Voilà. Donc en moins de 6 jours, les troupes américaines, donc avec des colonnes blindées, des chars Abrams, hélicoptères d'attaque Kiowa et Apache, sont aux portes d'Ankara. Malgré une résistance héroïque, l'armée turque est complètement dépassée par les événements. Donc elle est notamment victime de cette fameuse bombe que les Américains ont utilisée en Irak, la Dizikuter. Donc cette bombe qui marche par effet de souffle et d'écrasement. Et une semaine plus tard, les Américains, après avoir pris Ankara, sont aux portes d'Istanbul. Et donc là, que se passe-t-il? Pourquoi en fait? Quelles sont les raisons véritables de cette guerre? Les Américains veulent simplement mettre la main sur les ressources énergétiques dont regorgerait la Turquie. Quelles sont ces ressources énergétiques? Ce sont le bore et le thorium. Le bore et le thorium, juste pour, je ne suis pas un spécialiste de tout ce qui est scientifique, mais juste pour rappeler à nos auditeurs, ce sont des minéraux qui entrent dans le cadre de la construction, par exemple, enfin tout ce qui est ressources nucléaires. Notamment, ça entre en compte pour l'alimentation des centrales nucléaires, et ça pourrait aussi fournir, enfin il y a des articles dans des revues américaines, dans des revues scientifiques américaines, où il est dit que ça pourrait être transformé en un combustible pour automobile, un combustible pas cher, et en plus renouvelable quasiment indéfiniment.
Alors le fait que ce roman de géopolitique fiction ait rencontré un tel succès, c'est parce qu'il est bien écrit, c'est un roman ou c'est parce que ça révèle quand même au fond de la société, enfin plutôt des élites turques, puisque vous nous dites que c'est plutôt les élites qui achètent des livres, un espèce de retournement stratégique, puisque la Turquie a été pendant des décennies, enfin même avant avec l'Angleterre, mais donc l'allié, le pilier sud de l'OTAN, le plus
solide, et donc l'allié des États-Unis
et d'Israël.
Et d'Israël.
Tout ça va de soi.
Mais effectivement, mais là, le grand paradoxe de la Turquie, la Turquie est un paradoxe permanent, c'est que la Turquie a toujours honoré son alliance avec les États-Unis d'Amérique. Et des crises avec les États-Unis, on peut remonter dans les années 60 avec Chypre, toujours dans les années 70 avec Chypre, en 75 notamment, où les Américains ont mis un embargo sur les armes à destination de la Turquie. Dans les années 80-90, il y a encore eu des tensions. Et aujourd'hui toujours. Et cette alliance n'a jamais véritablement été remise en cause. Donc, effectivement, il y a des velléités d'indépendance de la part des Turcs vis-à-vis des États-Unis, des très grosses velléités. Mmh. Mais personnellement, je ne pense pas que cette alliance va être remise du jour au lendemain. Bon, il faut quand même savoir que tout le matériel de l'armée turque, l'armée turque qui est la deuxième armée de l'OTAN avec plus de 600 000 hommes, il faut quand même le rappeler, est acheté à crédit sur des fonds américains. Que les avions turcs sont des F-16 qui sont fabriqués sous licence en Turquie.
Oui, mais c'est pas le seul pays de l'OTAN qui est entièrement équipé par les États-Unis.
Mais en fait, plus généralement, à quoi peut-on
s'attendre?
Cet anti-américanisme des Turcs, c'est en fait la question kurde. Bon, pourquoi cette question kurde? Puisque au nord du Kurdistan irakien, la hantise du commandement turc, de l'État turc, serait la constitution d'un État turc indépendant ou autonome qui ferait figure de précédent et en quelque sorte d'aimant régional pour les communautés turques, notamment qu'elles soient en Iran ou en Turquie. La communauté kurde en Turquie qui fait quand même, il faut le rappeler, plus de 20 millions d'individus.
Et qui a encore fait parler d'elle bruyamment ces dernières semaines.
Exactement.
D'accord. Donc c'est un peu une... ça révèle quoi alors?
Il faut savoir que ce roman, en fait, est parti d'un fait précis. En juillet 2003, des soldats turcs qui avaient été envoyés en mission commando, ou en mission commandée plutôt pour assassiner des leaders kurdes au Kurdistan irakien, ont été arrêtés par l'armée américaine et traités de la plus humiliante des façons pour les Turcs, qui ont un orgueil national très élevé, puisqu'ils ont été menottés, les yeux bandés, et promenés dans la ville de Sulaymaniyah devant toute la population kurde rassemblée. Et ça, les Turcs l'ont extrêmement mal pris. Voilà. Et d'ailleurs, à propos de cet incident, il y a un film qui est sorti tout récemment au mois de février en Turquie, qui s'appelle Kurtlar Vardesi, la vallée des loups en turc, donc qui raconte cet incident et qui met en scène ensuite la vengeance qu'un agent secret turc va ourdir contre le gouverneur américain, le Gauleiter, puisqu'il est un peu traité de cette façon, du Kurdistan irakien, donc il va l'assassiner, donc il y a une sorte de périple, c'est une espèce de Rambo turc.
Ce film a eu également un grand succès, je pense.
Exactement, en Europe aussi, puisqu'il a été en Allemagne.
Oui, Edmund Stoiber a demandé qu'il soit interdit.
Exactement, qu'il a été interdit. Puisque... Ou anti-occidentalisme et antisémitisme, puisqu'il faut rappeler qu'il y avait aussi des rôles antisémites dans ce film. Bon, puisque le médecin, on voyait un médecin juif dans ce film, qui faisait des prélèvements d'organes sur les prisonniers irakiens, notamment les prisonniers irakiens de la prison d'Abu Ghraïr, et qui les revendait ensuite en Israël ou à New York. Bon, mais cet aspect, on peut dire, antisémite se retrouve aussi en filigrane du livre dont nous avons parlé, donc Metal Futterna, puisqu'il est nettement question aussi du lobby juif à plusieurs reprises dans ce livre, mais aussi du lobby arménien, puisque on voit le président Bush qui est entouré de toute une cour de lobbyistes arméniens.
Oui, c'est vrai qu'il est notable que le lobby arménien a toutes ses entrées à la Maison Blanche.
Comme chacun sait.
Bon. Il dirige la politique étrangère américaine.
Ouais. Le lobby grec, sans compter le Vatican aussi, qui soutient la croisade de George Bush contre la Turquie, puisque le Vatican voudrait mettre la main sur les lieux de pèlerinage paléo-chrétiens de la côte de la mer Égée, donc c'est-à-dire par exemple la ville d'Éphèse.
Mais est-ce qu'on n'a pas l'impression que depuis le conflit en Irak, il y a une élite intellectuelle turque qui aimerait bien un peu justement inverser cette alliance turque-américaine, parce que effectivement on parle d'un livre, on parle d'un film, on l'avait dit même sur cette antenne, le Mein Kampf d'Hitler avait très bien marché il y a à peine un an. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a une élite, alors peut-être islamique ou peut-être simplement purement intellectuelle, qui est en train dans le peuple d'expliquer que l'ennemi, c'est l'Américain, c'est Israël, vis-à-vis en fait de la politique du gouvernement.
Oui, alors il y a toujours eu, il faut dire, dans que ce soit chez les islamistes ou les tenants du nationalisme républicain, donc kémaliste, donc un très fort anti-américanisme. Donc chez les héritiers d'Atatürk, on retrouve ça notamment dans l'armée avec le général Kılıç Arslan, qui en mars 2002 n'a pas hésité à faire des déclarations en disant que si la Turquie n'était pas acceptée au sein de l'Union européenne, eh bien rien ne l'empêchait d'aller voir ailleurs, notamment de se retourner pour un partenaire stratégique du côté de la Russie ou de l'Iran. Mais quand on connaît l'imbroglio caucasien et le rôle assez trouble qu'a pu jouer la Turquie, que ce soit du côté des Azéris contre les Arméniens qui sont les alliés arméniens, rappelons qu'ils sont les Arméniens les alliés traditionnels des Russes, ou en Tchétchénie, on peut se poser sérieusement des questions sur la validité de cette analyse. D'autre part, dans l'entourage d'Erdogan, il y a un homme, Ahmet Davoglu, qui lui prône ce qu'on appelle la théorie de la profondeur stratégique. Qu'est-ce que c'est que cette théorie? Ce serait qu'en fait, bon, la Turquie aurait participé avec les États-Unis à la Troisième Guerre mondiale, qui aurait été la guerre froide. Bon, pour lui, chaque guerre se termine par le partage du vaincu. Et en fait, la Turquie n'aurait rien obtenu de cette fin de la guerre froide, hein, de la part des États-Unis, et donc maintenant, elle pourrait reprendre toute l'attitude vis-à-vis des États-Unis et orienter sa politique étrangère en fonction de ses propres intérêts, donc notamment vis-à-vis des pays musulmans, vis-à-vis de la Russie et contre les États-Unis.
Mais est-ce qu'on n'est pas dans une logique d'alibi? Parce que bon, un film, c'est très bien, un livre, c'est très bien, que ce soit acheté par 450 000 personnes, c'est très bien. La constante depuis un certain nombre d'années de la politique étrangère turque, y compris de sa politique diplomatique, malgré quelques secousses au Parlement quand il s'agit d'interdire le survol aux avions américains, c'est quand même de profiter le plus longtemps possible de la manne financière de l'Union européenne, et c'est quand même d'utiliser le levier de l'intégration européenne pour moderniser profondément le pays. Exactement. Quand on entend quelqu'un comme Hubert Védrine, par exemple, raconter que son sentiment, c'est que jamais les Turcs ne rentreront dans l'Union européenne parce qu'ils ne le souhaitent pas. En revanche, ils joueront la course à l'échalote jusqu'au bout en évitant les humiliations, mais ils joueront la course à l'échalote jusqu'au bout parce que ce levier est un levier important d'abord de financement de l'extérieur vers l'intérieur et un levier important interne pour réformer un pays qui a quand même besoin de sortir d'un certain archaïsme. Vis-à-vis d'Israël, les positions turques sont systématiquement et traditionnellement amicales, voire affectueuses. Et donc, est-ce que, ma foi, bah, par rapport à une islamisation qui progresse comme le montre chaque scrutin électoral, est-ce qu'il ne s'agit pas de jeter un peu de grain au moineau en disant oui, vous inquiétez pas, on n'aime pas les Américains, on n'aime pas les Israéliens. Mais enfin, les faits sont têtus, comme disait je ne sais qui avait bien raison, et rien ne montre que les Turcs changent un tant soit peu leur fusil d'épaule.
Parfaitement, donc c'est exactement, donc en politique étrangère, rien ne le montre. Donc c'est d'ailleurs, il faut quand même rappeler qu'au Parlement, le fait que la Turquie ait refusé le passage des troupes américaines sur son territoire en 2003, ça s'est joué à une voix près, alors que 99% de la population turque était contre. Pour dire à quel point les élites turques, qu'elles soient islamistes ou républicaines, sont à l'heure actuelle aux mains des anglo-saxons. Bon. D'autre part, moi, ma théorie, c'est que je pense personnellement que ce livre, Tempête de métal, s'inscrit plutôt dans le cadre de la politique intérieure turque et plus précisément dans le cadre d'une stratégie de la tension, notamment de la part de l'état-major turc. Puisque là-dedans, ceux qui sont accusés, ce sont les Kurdes qui sont accusés d'être une cinquième colonne. Et donc, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Les islamistes turcs sont en train d'instrumentaliser les réformes de l'Union européenne contre l'armée. Parce que plus de démocratie égale moins d'armée. Et moins d'armée égale moins de laïcité et plus d'islam. Bon, et l'état-major turc voit peu à peu cette mainmise sur le pouvoir qu'ils ont depuis la fondation de la République turque, depuis 1923, puisqu'en Turquie, c'est l'armée qui crée l'État, comme en Prusse. Voilà, c'est une armée qui a créé un État.
Et pourquoi on ne dirait-on pas que l'armée a tout intérêt à cette intégration européenne, l'armée qui est traditionnellement proche des États-Unis, traditionnellement donc a intérêt à se retrouver avec l'Union européenne libérale et atlantiste, parce que plus de libéralisme et plus de social-démocratie et de droits de l'homme, c'est moins d'islam.
Oui, d'accord, mais ils sont certainement occidentaux, mais ils sont nationalistes en même temps. Donc leur nationalisme, c'est pas les valeurs ottomanes, l'islam. C'est un nationalisme turc débarrassé du cosmopolitisme de l'islam Et même, disons qu'il y a des, qu'il se réfère, par exemple, au chamanisme des anciennes tribus turques d'Asie centrale. Bon. Donc, leur nationalisme est effectivement occidental dans les moyens, c'est-à-dire dans les moyens de modernisation du pays, de l'État, mais pas sur la fin. Il y a toujours une très forte méfiance vis-à-vis de l'Union européenne dans les cercles, dans les cénacles de l'armée turque à l'heure actuelle.
Grégoire Gambier, une question.
Oui, simplement là-dessus, pour être sûr d'avoir bien compris ce qu'il reste un peu du kémalisme, hein, pour nos auditeurs, parce que vous dites, vous avez écrit dans la lettre Sentinelle, donc votre article sur Tempête de Métal, là, le roman dont on parle, que la Turquie, c'est un peu, c'est une armée, donc vous venez de le dire, hein, une armée qui a conquis un empire en négligeant de passer par le stade intermédiaire de la nation. Donc c'est une très très jolie formule. Bon, de la nation peut-être, mais de l'État turc, lui, il existe. Alors moi j'étais tenté de vous demander, est-ce que le kémalisme, est-ce que ça n'aurait été qu'une parenthèse constructiviste dans l'histoire de la Turquie, ou est-ce que c'est encore une réalité, et c'est ce qui, indépendamment effectivement des effets de manche ou des succès populaires qui sont parfois effectivement des succès d'impuissance. Enfin, la réalité de la politique turque est encore marquée par le kémalisme.
Oui, indéniablement, la politique turque est encore pour l'instant marquée du kémalisme, même si elle s'en libère progressivement. Puisque qu'est-ce que c'est que le kémalisme ? On pourrait résumer ça dans une sentence lapidaire, c'est la démocratie pour le peuple, mais malgré le peuple. Tant que Mustafa Kemal a été vivant, et jusqu'en 1946, il faut savoir que la Turquie a fonctionné sous le système du parti unique. Donc d'un parti qui était donc nationaliste, laïque et républicain. Et dès qu'en 1946, les Américains ont voulu démocratiser la Turquie, qui est arrivée au pouvoir en 1950, ce sont des démocrates qui ont, dès cette époque-là, instrumentalisé l'islam à des fins électorales, pour ne pas dire démagogiques. Donc on assiste à quoi à l'heure actuelle ? En fait, la Turquie, ce sont deux nations qui coexistent. Donc d'une part, une élite ultra-occidentalisée, mais qui n'adhère pas à des valeurs européennes en tant que telles, à une culture européenne, mais plutôt à un mode de vie américano-planétaire, et d'autre part, une masse très importante de la population, plus de 80%, qui elle reste d'abord et avant tout asiatique et musulmane. Et donc cette espèce de Janus à deux visages qui se présente à notre analyse.
Je m'interroge, je voudrais des précisions sur cette dichotomie. Vous parlez souvent d'élite laïque et de masse musulmane. Est-ce qu'il n'y a pas également la naissance d'une forme d'élite musulmane, non seulement politique, mais également économique? J'ai lu récemment un article nous expliquant que naissait, notamment au Maghreb, toute une série d'associations patronales islamistes même, s'inspirant de l'exemple glorieux d'une organisation patronale turque qui s'appelait le Musiad.
Musiad, effectivement. Le Musiad qui fait concurrence en Turquie au TUSIAD, qui est l'équivalent du MENEF en France. Mais la différence...
Est-ce que ça ne signifie pas qu'il y a une émergence d'une élite islamique ?
Oui, il y a parfaitement. Il y a une émergence d'une élite islamique. On pourrait dire d'une élite conservatrice et libérale, pour lequel l'Union européenne est une formidable opportunité, puisque l'Union européenne permet de s'affranchir du carcan laïque et jacobin de l'État turc et de faire fructifier ses affaires. Donc oui, on peut parfaitement le dire, oui.
On parle beaucoup de l'Union européenne, parce qu'effectivement la Turquie a été dans l'actualité ces dernières années en raison de sa candidature pour l'entrée dans l'UE. Mais vous avez fait un mémoire sur les relations franco-turques à l'époque du général de Gaulle.
Exactement.
Donc j'ai envie de vous demander et les relations franco-turques indépendamment de l'UE.
Bah écoutez,
elles en sont où? Y a-t-il un jeu français? Y a-t-il des liens privilégiés?
Oui. Alors bien sûr, bon, les Turcs, il y a toute une mythologie sur les relations entre la France et la Turquie, où on les fait toujours remonter à François Ier, à cette fameuse alliance de revers de François Ier contre Charles Quint, donc contre l'Empire universel, donc on pourrait dire aussi contre l'Europe, puisque Charles Quint défendait quand même l'Europe contre les Turcs. Donc ça remonte au XVIe siècle. Mais pour revenir à notre époque, plus récemment, bon, les relations franco-turques ont toujours été marquées par un déséquilibre. C'est-à-dire que dans les années 50, on peut rappeler que la Turquie n'a pas hésité, tout en étant membre de l'OTAN, à fournir, et c'est bien ça le paradoxe, des armes au FLN. Bon, c'est le seul pays de l'OTAN à l'avoir fait. D'autre part, d'après les années 70, les relations entre ces deux pays se sont assez dégradées à cause notamment du terrorisme arménien.
le terrorisme arménien et la question arménienne plus généralement du génocide qui a empoisonné et qui empoisonne toujours la relation entre l'Arménie et la Turquie, entre la Turquie et la France. Et ensuite, en 2001, bon, bien sûr, cette fameuse reconnaissance du génocide arménien qui nous a fait perdre notamment des marchés d'armement, notamment celle du Charles Leclerc. Donc les relations ne sont pas au beau fixe et disons que l'espoir des Turcs c'est toujours un peu d'instrumentaliser le philo-islamisme de Jacques Chirac pour faire prévaloir en fait la demande d'adhésion d'Ankara à Bruxelles.
Plus précisément d'ailleurs dans le livre comme dans le film, puisque visiblement il s'agit de la même veine, comment est traitée l'Europe? Quelle vision ont-ils de l'Europe? Non seulement de la politique européenne, mais des populations européennes, de la civilisation européenne, comment se situe-t-il par rapport à nous?
Oui, comment se situe-t-il? C'est très intéressant puisque Burak Turna, non seulement après avoir écrit Tempête de métal, qui était ce livre de la guerre entre les États-Unis et la Turquie, a écrit un deuxième livre, je l'ai là devant les yeux, Une fin du Nia Shav Savache, donc la Troisième Guerre mondiale, qui décrit en fait, en 2010, une guerre entre la Turquie et l'Europe. Alors, que se passe-t-il en 2010? La démocratie s'effondre en Europe.
C'est la guerre des kebabs.
Voilà. Et des partis d'extrême droite arrivent au pouvoir, tant en Hollande qu'en France, en Allemagne et en Belgique. Sur ce, dans les diverses...
Et en Autriche, rien.
En Autriche. Ils y sont déjà, ils vous diront. Ensuite, éclate tant dans les banlieues de françaises qu'allemandes, notamment à Munich, des nuits de cristal, c'est l'expression qui est utilisée dans le livre, où les populations turques et plus largement musulmanes sont victimes de pogroms anti-musulmans. Et sur ce, la Turquie, pour résumer très rapidement, la Turquie alliée à la Russie, c'est ça le grand paradoxe du livre, intervient militairement. Donc il y a une expédition aéroportée, l'armée turque arrive jusqu'aux portes de Berlin et de Paris et de Bruxelles, le drapeau turc flotte sur le Reichstag, et la capitale de l'Europe est transférée à Istanbul.
Voilà. Ah oui, c'est pour vous dire. C'est une belle fin, oui.
Une belle fin. Alors, plus largement, quelle est la vision des Turcs sur les Européens? Quelle perception ont-ils de nous? Eh bien, dans Tempête de métal, il y a un passage, un moment où l'agent secret turc se trouve en mission à Amsterdam, et puis il rencontre des membres de la liste Pim Fortuyn, donc des militants identitaires hollandais, et il les décrit comme un ramassis de drogués, d'homosexuels, de dépravés. Donc en fait, si on est identitaire en Europe contre la Turquie, on défend pour les Turcs un mode de vie décadent.
Ouais, bah si ce n'est que Pim Fortuyn, enfin c'était peut-être uniquement ces militants-là la description, parce que c'était quand même un positionnement des.
Oui, c'était original. Aussi leur poser un positionnement.
Non, mais ce qui est certain, c'est que l'image véhiculée par l'Europe est une image de dépravation dans les pays musulmans, et que ceux qui défendent leur civilisation européenne sont perçus comme défendant l'image qui en est donnée, donc ce modèle de dépravation, ce qui est assez logique. C'est insupportable, mais c'est logique.
D'ailleurs, il ne faudrait pas faire reproche aux Turcs de défendre tant leur identité que leur religion, que leur pays. Bon,
on peut même pas leur reprocher de considérer que quand on voit ce que c'est qu'une gay pride, c'est pas follement enthousiasmant.
Exactement. Bon. Le problème, c'est que c'est pas que les Turcs soient nationalistes, c'est que nous ne soyons plus. Dans le sens noble du terme.
Certes, pour défendre l'honneur perdu de la Russie, vous avez évoqué ce scénario épouvantable d'une alliance turco-russe, scénario qui se trouve donc dans ce livre, pour venir établir l'ordre en Europe et faire cesser les pogroms anti-turcs. Je veux juste signaler qu'il y a un livre un peu équivalent qui a un énorme succès aujourd'hui en Russie, qui s'appelle Mosquée Notre-Dame de Paris, qui est également un roman de politique fiction, bien entendu, et dont le scénario est le suivant. L'Europe, sous la pression migratoire et les dynamiques démographiques exogènes, croule sous les populations musulmanes. Celles-ci décident de s'emparer du pouvoir dans de nombreux pays européens, dont la France, transforme illico Notre-Dame de Paris en mosquée Notre-Dame de Paris. C'est un livre assez chargé de pathos nationaliste, comme le livre turc, et l'armée russe intervient envahit non pas la Pologne, mais entre en Pologne pour la protéger, et un nouveau rideau de fer sépare voilà les terres
population
européennes.
Abandonnée, faites confiance aux soldats russes.
Voilà, mais il me semble que dans ce livre, elle ne poursuivent pas jusqu'à Paris comme en d'autres temps, mais qu'elle s'arrête simplement en Pologne pour protéger le monde slave. Bon, enfin, donc voilà.
C'est ce qui est amusant dans ces livres de poétique fiction, c'est que celui qui s'allie avec l'autre ou celui qui envahit, ça change, mais le constat de base est toujours le même, c'est l'Europe occidentale croule sous l'invasion afro-musulmane. C'est assez amusant. Quelques messages d'auditeurs.
Il y a ça aussi dans Tom Clancy, donc l'unanimité est vraiment totale.
Ah oui, mais ça, j'ai pas lu ça. Enfin, j'ai pas eu les autres non plus, remarquez.
Je sais pas pourquoi je dis ça.
Mais celui-là, j'ai vraiment pas lu.
Celui-là, tu ne le liras pas.
Voilà, c'est ça.
Vous refusez le lien.
Je suis auditeur de 23 ans. Selon moi, la bonne solution, c'est que l'Europe doit aller de Brest à Vladivostok avec des alliances avec les pays asiatiques. Cette auditrice aime beaucoup ce groupe de jeunes gens érudits et courageux. Je sais si c'est nous, tant mieux.
Oui.
Avec cette question, comment les Turcs peuvent-ils être alliés à la fois des USA et des Israéliens alors qu'ils sont musulmans? Ne jouent-ils pas un double jeu? Bon, on a abondamment glosé du paradoxe turc et puis le Janus est bien là. Ça se saurait si l'appartenance à une religion était condition d'alliance diplomatique et ce qu'on a vu et géopolitique.
Comme le dirait Émeric Choprade, qui n'est pas là ce soir, les civilisations ne sont pas des acteurs diplomatiques, ce sont les États qui en sont, en voilà une illustration.
Voilà. Et puis une réflexion d'un auditeur également. Votre interlocuteur intitule antisémitisme la position des Turcs à l'égard d'Israël. Il ne s'agit pas de cela. On peut critiquer Israël sans être antisémite. C'est la même chose. Je ne crois pas qu'on ait dit que la position face à Israël était antisémite. Ce qu'on a dit, c'est que dans le livre,
il y avait un certain nombre de clichés qui peuvent être qualifiés, qui sont communément qualifiés.
Et donc nous sommes d'accord avec cet auditeur. Alors on parlait. Alors je ne sais pas si c'est de la politique fiction, mais ça c'est de la réalité. Je ne sais pas ce que ça préfigure. Donc j'avais vu que Tancrède Josserand que fin février début mars on a assisté aux premiers exercices navals russo-turcs en mer Noire dans le cadre de l'initiative Harmonie de la mer Noire, groupe naval russe conduit par le croiseur lance-missile Moskva à bord duquel se trouvait le commandant en chef de la marine de guerre russe, l'amiral Vladimir Massorine, bien connu de nos services.
Il a une belle casquette,
ouais, une énorme casquette. Et puis autre sujet qui auront sollicité qui auront soutenu votre attention, c'est la volonté de construire des projets énergétiques turco-russes dans le bassin de la mer Noire. Là aussi, ça participe de l'exploration de ces nouvelles routes de transit pour le gaz et le pétrole. Rappelons que la Turquie dépend à 65% du gaz russe. Grégoire Gambier, vous ou peut-être allez-y, Tancrède de Josserand.
Oui, on parlait du double langage turc, du double jeu turc. Effectivement, bon, il y a quelques exemples concrets. Il faut toujours lire les déclarations des dirigeants turcs et les actes des dirigeants turcs à plusieurs degrés. Par exemple, prenons un exemple, celui du nom du parti qui est au pouvoir à l'heure actuelle en Turquie, c'est-à-dire l'AKP. Ça veut dire Parti de la Justice et du Développement en turc. Adalet Kalkınma Partisi. Bon, c'est très innocent comme nom. À première lecture, ce n'est absolument pas le nom d'un parti islamiste. Il n'y a rien de religieux. Mais quand on prend l'abréviation, c'est-à-dire AK Partisi, eh bien, on trouve le mot AK qui a une connotation religieuse puisqu'il veut, ça veut dire pureté, innocence. Bon, deuxième exemple. Sur la carte d'identité en Turquie, jusqu'à une époque très récente, il y avait, et c'est le grand paradoxe pour une république laïque, la mention de la confession religieuse. Bon, c'est-à-dire que les minoritaires qui sont extrêmement peu nombreux, moins d'1% de la population, avaient leur confession religieuse inscrite sur leur carte d'identité, qu'ils soient chrétiens, chaldéens, syro-chaldéens, orthodoxes, juifs. Bon, eh bien, avec la réforme de l'Union européenne, cette mention a été supprimée. Simplement, elle a été remplacée par un numéro de code barre qui veut dire la même chose. Voilà. Et donc, même, troisième et dernier exemple de ce double jeu permanent, celui d'Erdogan, donc qui s'affiche comme laïc. Il ne veut pas que il veut que ses filles puissent porter le voile à l'école. Qu'est-ce qu'il fait? Il les envoie étudier aux États-Unis. Voilà.
Tancred Josserand, merci beaucoup de ces éclairages sur la Turquie d'aujourd'hui et celle qui se pense pour demain, visiblement. Nous rappelons simplement donc deux articles. L'un que vous avez écrit donc dans la lettre Sentinelle, justement sur le roman Tempête de métal dont nous avons beaucoup parlé.
Est-ce qu'on a une chance de l'avoir en français ou
alors?
Oui,
alors je rassure tout de suite nos éditeurs. Ce livre Tempête de métal va être traduit à la NRF. Donc ça va sortir très prochainement.
Sinon, moi, j'aurais pas réussi à le traduire et je l'aurais pas appelé d'entrée de jeu de Tempête de métal. Mon turc est un petit peu...
T'aurais fait Orage d'acier.
Voilà, sans doute, j'aurais fait un contresens majeur. Et surtout...
Avant de citer la deuxième revue, est-ce que vous pouvez donner les coordonnées de la première, s'il vous plaît, que vous avez citée, c'est-à-dire comment se procurer la lettre Sentinelle?
La lettre Sentinelle, alors, vous pouvez la commander, commander un exemplaire, vraisemblablement, à Sentinelle Analyse et Solutions, 36 rue Schaeffer, dans le 16e à Paris. Donc je répète, Sentinelle Analyse et Solutions, 36 rue Schaeffer, 75-116 Paris. Voilà pour la
lettre.
En
envoyant un chèque de combien ?
Comme vous y allez,
Gratuit, ça.
C'est sûrement pas gratuit parce que c'est d'excellente qualité. Donc maintenant, la qualité se paye.
Si vous l'ignorez, il suffira de faire comme on fait d'habitude, c'est-à-dire simplement signaler l'intérêt pour cet article, pour cette revue, et ils se débrouilleront.
Oui, ça, certainement. Je pense que, c'est une excellente revue donc de décryptage de l'actualité géopolitique et géostratégique, donc dans lequel vous avez donc écrit une très très fouillée analyse donc de ce roman. Et je signale également votre article dans la revue française de géopolitique, donc le quatrième numéro qui est en train de sortir, justement consacré à la géopolitique de la Turquie, donc revue dirigée par Aymeric Choprade, Xavier Van Lierne, vous l'avez cité tout à l'heure. Donc c'est la revue française de géopolitique, et Tancred Josserand vous signe un papier sur l'Europe, la Turquie et le général. Bravo, en tout cas le titre sonne de façon martiale et quasi kémaliste.
Merci Grégoire Gambier, nous allons passer à notre troisième demi-heure culturelle. Chers auditeurs, merci de nous retrouver dans ces chroniques de la vieille Europe sur Radio Courtoisie, hébergée dans le libre journal de Serge de Bekech. Et donc nous entamons notre troisième demi-heure, qui est traditionnellement consacrée à une actualité davantage culturelle et voire artistique sur la scène la plus européenne possible. Et cette séquence est animée par le bon Patrick PL.
À vous, Patrick. Mon cher Philippe Christel, on va commencer, on va faire une petite expérience. Vous allez voir. Parce que je me suis aperçu que vous vous ennuyez un peu au moment de la chronique, donc je vais vous prêter un livre.
Ah, il y a une gestuelle, mais on est à la radio, là.
C'est pas grave. Je vais vous prêter un livre et d'ici la fin de ma chronique, je vais vous demander ce que vous en pensez. On en parlera ensuite aux auditeurs, mais vous le feuilletez et vous me direz.
Ah, mais c'est le livre de Marine Le Pen, ça se lit en 3 minutes.
Donc, je vais commencer. On laisse un silence parce que après
une phrase pareille, on est obligé.
Donc je vais commencer par un livre qui est peut-être, et je pèse mes mots, le plus grand livre de géopolitique sur la guerre d'Irak. Nous avons droit à l'analyse la plus fine et la plus exacte qu'un intellectuel ait écrit sur le conflit irakien. Ce livre, c'est Ma guerre contre la guerre au terrorisme de Terry Jones. Alors Terry Jones, c'est tout simplement l'un des créateurs des Monty Python.
Ah oui.
Et franchement, si vous devez lire un livre sur le sujet, c'est celui-ci. C'est sur Internet que, de temps en temps, Terry Jones lâchait son humeur sur la politique de George Bush. Et cette année, il a décidé de réunir ses chroniques. Alors, l'avantage du livre de Terry Jones est que dans 10 ans, son livre sera encore d'actualité, son humour et son analyse restera, et surtout la joie de reprendre régulièrement une de ses chroniques par pur plaisir. Car souvent, lors d'un conflit ou d'un événement, nous voyons arriver un nombre de livres qui décryptent l'actualité pour éclairer les pauvres citoyens que nous sommes. Alors, ce week-end, en fouillant dans ma bibliothèque, j'ai cherché tous les livres que j'avais achetés lors de la première guerre du Golfe, et qui, à leur lecture, m'avaient paru importants par leur analyse.
Eh bien, franchement, à part le petit livre de Baudrillard, La guerre du Golfe n'a pas eu lieu, je pourrais tous les mettre à la poubelle. Alors, Les secrets de la guerre du Golfe, La guerre du Golfe, explication d'un conflit, Tempête du désert, la véritable histoire, Saddam contre George Bush, un duel sans merci, La guerre du Golfe, Les dessous d'une guerre, George Bush contre les ninjas, ou Oui oui en Irak, etc., etc. Sincèrement, à part caler un lit ou une armoire, ces livres n'ont plus le moindre intérêt. L'avantage du livre de Terry Jones est qu'il restera éternel par son humour, mais aussi par son analyse. Car écrire une lettre d'un directeur d'école s'adressant aux parents de Tony Blair pour lui parler de sa dissertation est purement jouissif. Alors, petit extrait.
Oui. Hein.
Que Tony, le petit Tony, prenne pour argent comptant les informations qui émanent des États-Unis révèle une naïveté stupéfiante chez un élève de première. A fortiori, s'il espère, comme Tony, entrer à l'université et ensuite au gouvernement. Il écrit, d'un côté, alors ça c'est ce que disait Tony Blair à l'époque, d'un côté des terrorismes étrangers, un extrémiste qui a créé sa propre milice et les derniers partisans d'une dictature brutale, de l'autre, un peuple au courage et à l'humanité immense. Ça pourrait à la rigueur passer au CP, mais je suis navré. En première, nous attendons quelque chose d'un peu plus subtil. Pour être tout à fait sincère, monsieur et madame Blair, il est heureux que votre fils n'occupe pas un poste de responsabilité, car son manque de discernement et son ignorance crasse nous ferait alors courir à tous un effroyable danger. Donc voilà, ce sont des textes. Et il faut savoir que Terry Jones n'est pas simplement humoriste, il est historien de formation, donc c'est pas les chroniques de Guy Carlier que vous allez lire, c'est l'inverse. C'est un petit chef-d'œuvre d'humour.
Très bien, on peut le lire en version originale, bien sûr,
encore plus drôle.
Bien.
Je vais vous parler peinture. Après littérature, peinture. Italanova, 50 ans d'art italien au Grand Palais à Paris. L'exposition vous montrera deux courants de la première moitié du siècle en Italie, le futurisme et le classicisme. Tous les grands noms du futurisme dont le manifeste est publié par l'écrivain Marinetti en 1909 dans le Figaro et en français sont là, avec certaines œuvres rarement exposées de Bocconi, Balla, Russolo, Severini, et avec des coups de projecteur sur Giorgio De Chirico et son frère Alberto Savigno, que du bonheur. Et pour une fois, ce qui n'est pas coutume, les panneaux pédagogiques de l'exposition qui adoptent pour l'ensemble de l'exposition un parti pris résolument esthétique n'évoquent que la peinture et simplement la peinture. Donc, quand j'entends le journaliste Jean-Luc Manot pousser un coup de gueule à la radio sur l'expo car il n'y a que des peintures proches du fascisme et qu'il aurait aimé être prévenu, eh bien je lui dirais que justement c'était le but de l'exposition et que pour une fois on n'essaye pas de vous faire un cours sur le bien ou le mal, mais simplement de vous montrer un courant important de l'art contemporain qui est peu connu en France, de vous montrer deux courants opposés qui ont cohabité dans une Italie qui n'avait pas mis une politique culturelle imposée comme en Allemagne. On n'a pas besoin de mettre méchants peintres fascistes sous chaque tableau et que les gens sont adultes et sont capables d'analyser par eux-mêmes ce qu'ils voient. Donc, c'est 50 ans d'art italien au Grand Palais à Paris du 5 avril au 3 juillet. Et vous avez un catalogue de 300 pages qui coûte quand même 49 euros. Alors, dans ce cas-là, vous faites, comme souvent pour ce genre d'exposition, vous attendez quelques mois et vous le trouverez dans une librairie à moitié prix. Et il serait intéressant de rééditer le manifeste du futuriste de Marinetti. Donc, si certains éditeurs, je sais que L'âge d'homme, il y a de ça 30 ans, l'avait édité. Donc, ça serait bien quand même. C'est un texte important de l'art contemporain. Donc, mon cher Philippe, avez-vous...
Écoutez, par rapport à ce qui... Je me souviens qu'Oscar Wilde disait « C'est une bien triste chose que de nos jours, il y ait si peu d'informations inutiles. » Je crois qu'on est servi. C'est un peu une espèce de couteau suisse en forme de livre, ce que vous m'avez donné. C'est fascinant.
C'est un peu ça que vous avez entre les mains. Et qu'est-ce que vous en avez pensé?
Ben, c'est une espèce de couteau suisse en forme de livre. C'est clair, non? C'est pas fait mal. C'est suisse, donc ça s'ouvre lentement.
Non, mais je crois que c'est ce que vous avez entre...
C'est l'almanach Vermeaux de, sur les bords de la Tamise, c'est ça?
Ce que vous avez entre les mains, ça s'appelle les miscellanées de Monsieur Scott. Et effectivement, c'est un journaliste allemand qui a très bien défini ce livre comme un couteau suisse en forme de livre. Alors,
je savais que j'avais une espèce de fusion avec les journalistes.
Non, mais c'est vrai, vous avez...
Surtout quand c'est dans le quatrième de couverture.
En quelques secondes, vous avez trouvé cette formule. Effectivement, c'est comme un couteau suisse. C'est tout beau, c'est pratique. Mais la moitié de ces labs
femmes ne servent pratiquement ou quasiment à rien.
Mais c'est suisse et c'est beau.
C'est vrai que sincèrement, quand vous prenez un couteau suisse, vous vous servez rarement de certains tournevis. Le
tire-bouchon.
Le tire-bouchon, oui. Si, souvent. Surtout en France. Hein? Eh bien, ce livre est pareil. C'est une sorte de petite encyclopédie avec des informations qui ne servent pas grand-chose. Alors, j'ai quand même noté quelques petits exemples. Ce qui est incroyable, c'est que par exemple, vous avez la liste des chevaux célèbres. Alors, ça paraît complètement ridicule, mais savoir le nom du cheval du roi Arthur, de George Washington, de Don Quichotte, de Napoléon ou de Neptune.
C'est fascinant, Don Quichotte.
Hein? Sincèrement, je trouve ça très intéressant. Vous avez par exemple la liste, pour les gens qui s'intéressent au service secret, où tout le monde connaît le MI5 anglais ou le MI6. Mais est-ce que vous savez quelle est l'action du MI1, le 2, le 3, le 4, le 9, le 10, le 11, le 14, le 17 ou le 19? Ben, par exemple, vous avez le MI14 qui est spécialiste de l'allemand. Voilà ce genre de liste qui est complètement inutile, sincèrement... Alors, par exemple, les degrés de la franc-maçonnerie.
Mais vous faites de l'ethnocentrisme. Vous faites de l'ethnocentrisme, parce que je pense que les chevaux, les races de chevaux, les chevaux des hommes célèbres, c'est typiquement britannique. La franc-maçonnerie, c'est extrêmement britannique. Et de même, les services secrets. Je pense que votre journaliste allemand considérait que c'était un couteau suisse parce qu'il était allemand. Mais pour un britannique, c'est un guide de survie dans la société britannique.
C'est un vademécum qui sent le pourri.
Un autre exemple. Attendez, le nom du cheval célèbre de Don Quichotte, vous appelez ça anglais? Ou d'Alexandre le Grand.
L'amour des chevaux et des champs de course.
De Bouddha.
Eh oui.
Vous
avez les degrés de la franc-maçonnerie. Tout le monde parle de la franc-maçonnerie. Moi, j'ai trouvé un degré qui est extraordinaire. C'est le 14e. C'est le grand élu de la voûte sacrée sublime maçon.
Mais même la franc-maçonnerie,
je trouve ça très beau. Par exemple, dans les voyages de Gulliver, vous avez...
Gulliver.
Oui, effectivement, c'est un anglais qui a fait ce livre. Ce n'est pas un français. Vous avez les codes irlandais du duel. Vous avez
le premier qui
exactement tous les ingrédients qu'il y a dans un Big Mac, du fameux fast food. Et effectivement, quand vous lisez ça représente quand même une quinzaine de lignes. Ça ne vous donne pas envie d'en manger, hein.
Bon, j'ai failli l'acheter
c'est franchement un véritable petit cadeau original pour vos amis.
Est-ce que ça tient pas de Philippe de Lerme, c'est-à-dire que c'est la gorgée de bière et autres menus plaisir, et donc là c'est les petites connaissances inutiles et autres menus plaisir.
Pas du tout. Vous avez par exemple toutes les
par exemple les trois Zérini.
Pardon.
Les Zérini qui sont les filles des Naiades.
Vous savez que vous avez le nom des 12 apôtres.
Mégère, Tisiphone et Alecto.
Il y a les 7 péchés capitaux aussi. Le langage des signes.
Ah oui, il y a la liste de toutes les célébrités représentées sur la pochette de l'album Sgt Pepper des Beatles.
Ah, c'est vraiment un truc de Brit.
Un livre sans ça.
Franchement, c'est un livre qui effectivement ne sert à rien. Mais si vous avez un cadeau à faire, vous pouvez l'offrir à vos amis. Et en plus, chaque personne qui prendra le livre va citer sa trouvaille, parce que c'est toujours comme ça. C'est qui lui permettra de passer une bonne soirée, qui aurait pu être rasoir, et vous passerez pour un homme de culture et de bon goût avec ce cadeau. Mais attention, si vous l'achetez, tâchez de ne pas retenir les mêmes informations que votre voisin, histoire que chacun de notre côté l'on continue d'avoir l'air cultivé. Donc, vous voyez, c'est ce genre de livre que j'aime bien. C'est une belle édition, il est sobre. Donc c'est les miscellanées de Monsieur Scott aux éditions Alia. Voilà, moi c'était mon coup de cœur à ce niveau-là. Il y a peut-être un autre coup de cœur.
Oui, pour la première fois
depuis que vous êtes à Courtoisie, je crois que j'ai réussi.
Oui, tu y parles. Notamment une citation de Léon Tolstoï qui plaira à nos amis. Nietzsche était stupide et anormal. Voilà.
Il partageait donc l'opinion de Wagner sur la question.
Ah, bravo.
Un coup de gueule.
Oui, là c'était un peu bas.
Vous allez nous relever tout ça?
Non, du tout. Non, l'attaque contre le grand Frédéric, mais bon, ça ne m'étonne pas de vous. Un petit coup de cœur. Allez, pour une trilogie dont le troisième tome n'est pas encore sorti, donc c'est le moment d'en parler.
C'est donc l'Enjeu mineur de Pierre Bordage, donc qui s'intitule 1792, 1793, 1794. Donc les années étant donc les différents tomes de cette trilogie. Alors coup de cœur, pourquoi essentiellement parce que c'est un roman fantastique au sens anglo-saxon, quasi britannique du terme, donc fantasy, sur fond de fresques historiques. Et quelles fresques, puisqu'il s'agit des événements de la Révolution française, vus à Paris, à Nantes et surtout dans le bocage vendéen, donc d'où les années, donc bien sûr 1792 à 94. Alors c'est une très belle construction romanesque, hein, les personnages se croisent, les destins s'entrechoquent, la tragédie est partout, et surtout ce qui est plaisant dans ce roman, même pour les lecteurs de Radio Courtoisie qui n'aimeraient pas beaucoup le fantastique ou l'heroic fantasy, c'est la description de la Révolution française et surtout donc de ses piquiers et sans culottes. Et les révolutionnaires sont présentés pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire à peu près l'ali de l'humanité. Et donc les bas-fonds,
le cégétiste de l'époque, quoi.
En pire encore, parce que c'est vraiment les bas-fonds qui dégorgent. En plus, il y a des descriptions absolument apocalyptiques, quasi physiques, de ces bataillons de sans-culottes. Donc, c'est à la fois réjouissant parce que c'est rare, hein, c'est un langage très direct et très contre-révolutionnaire dans ce qu'il a de plus sympathique. Et c'est évidemment un peu désolant et hautement tragique puisque c'est quand même une période de l'histoire de France, pour le coup, l'une des plus sombres qu'elle ait connu. Voilà, donc c'est l'Enjeu mineur de Pierre Bordage.
L'Enjeu mineur.
L'Enjeu mineur, donc puisqu'en plus il y a beaucoup de patois vendéens, donc Pierre Bordage s'est amusé à retrouver le patois vendéen, enfin Poitevin plus exactement, essentiellement.
Charentais.
Picto-Charentais. Non, la Charente est plus au sud, je vois bien encore une pique.
Mais donc ça veut dire quoi l'Enjeu mineur?
L'Enjeu mineur.
C'est ça qui intéresse les auditeurs, qui appellent, qui se ruent sur le standard pour comprendre.
Pour comprendre exactement ce que c'est, être enjeuminé, c'est possédé, voilà, c'est quelqu'un qui a subi un sort. D'accord. Donc l'enjeu mineur, c'est celui qui lance
des sorts.
Voilà, tout à fait. Et donc c'est du patois,
Poitevin. Harry Potter du bocage dans le pays du
monde. Mais il faut lire Pierre Bordage, parce que ça correspond...
Oui. On lit pas assez Pierre Bordage.
Ben non, et donc vous retrouverez du patois de nos campagnes, un peu d'ancien régime, qu'on a retrouvé encore jusque dans les années 50, puisque Pierre Bordage a fait sa petite enquête pour retrouver toutes ces perles et bien sûr encore une fois donc une description tragique, truculente de ce qu'a pu être la Révolution française vue à hauteur de ce qu'elle était, c'est-à-dire du caniveau.
Tiens, je pense, puisque vous citez Pierre Bordage et tout le travail de réveilleur ou d'éveilleur de peuple qu'il a fait, je crois qu'on pourrait je crois qu'on l'a pas fait la dernière émission.
Citer Marcal,
pas citer Marcal, mais juste manifester notre tristesse à la disparition de Jean Mabir.
Malheureusement la
dernière fois
non. Qu'il était pas,
c'était pas ça, d'accord, voilà. Donc voilà, Jean Mabir, quelqu'un qui a compté pour notre génération, donc je crois que c'est important au moins au même titre que Jean Pax Mayfred de saluer cette mémoire.
Je pense sincèrement que sur Jean Mabir, je crois que tout a été dit, il y a eu un nombre d'hommages à salut Jean, adieu Jean. Nous on l'a pas vraiment connu, on a discuté, on l'a rencontré, on veut simplement dire au revoir à monsieur Mabir qui moi personnellement m'a fait connaître dès l'âge de 15 ans certains livres et voilà, c'est tout.
Bien, après ce petit clin d'œil, est-ce que Xavier Van Lierde, vous aviez de votre côté un coup de cœur ou un coup de gueule, pourquoi pas?
Je n'ai pas prévu spécifiquement de coup de cœur, mais je peux vous en trouver un.
J'avais le cœur en bandoulière.
J'ai le cœur en bandoulière et j'ai été profondément ému, quasiment jusqu'aux larmes, par la lecture du livre d'Andrei Makin, cet écrivain franco-russe, un essai qu'il consacre à la France et qui s'appelle Cette France que l'on oublie d'aimer et qui est à la fois sensible, intelligent, érudit et bref. Et peu cher, on peut l'acquérir pour le prix de 12 euros. C'est un livre extrêmement difficile à décrire, tant il est subtil. On est loin de toutes les thèses manichéennes. Il déclare sa confiance en la France et son avenir. Il ne cache aucun des travers de notre identité nationale. Parmi les plus grotesques, je peux en citer peut-être un assez rapidement. Et c'est toute une veine littéraire que pour certains étrangers que de railler, notamment anglo-saxons, l'éthique français. Ça produit d'ailleurs des succès éditoriaux à répétition de l'autre côté de l'Atlantique. Et là, ici aussi, puisqu'on est un petit peu maso, pour ce qui est d'André Makin, ce n'est absolument pas cela. Il essaye de donner une description fidèle. Toujours est-il qu'il y a quand même quelques petites perles sympathiques, et notamment celle-ci. Il était effaré par la posture dite de l'intellectuel français, reconnaissable à quelques tics comportementaux qui surprennent tous les étrangers, être ou se dire de gauche, l'intellectuel de droite étant en France une abjecte contradiction dans les termes, avoir tort avec Sartre plutôt qu'avoir raison avec Aron, à l'âge de 20 ans se réclamer de Mao, à 30 ans de Marx, à 40 ans se gausser des deux, désigner pour chaque décennie une nouvelle victime de l'ordre social, les prolétaires, la jeunesse étudiante, enfin les immigrés, exalter la tolérance avec l'intonation intolérante d'un commissaire politique, mais surtout, et ce trait résume le reste, avoir une opinion définitive et indiscutable sur n'importe quel sujet, être expert de l'univers entier, lourd cahier des charges. On voit qu'il a bien perçu les faces les plus grotesques de notre identité nationale, mais il en saisit également la quintessence dans de nombreuses autres pages, et il met également le doigt sur une des causes importantes de notre décadence, c'est la décadence de la langue française. Puisqu'on est sur Radio Courtoisie, on s'interroge souvent pourquoi le français disparaît, peut-être parce que notre pays a moins de rayonnement économique qu'auparavant. On peut démultiplier les thèses. Lui en trouve une autre. Il estime que si la langue française décline aujourd'hui, si le français est moins lu, si les œuvres françaises sont moins lues, c'est parce que ce n'est plus la langue de la vérité, mais celle du politiquement correct. C'est-à-dire que le français, pour lui, ne retrouvera sa vitalité. S'il avait une vitalité auparavant, c'est parce qu'il décrivait le réel. Il était le support d'une vision du monde qui mettait le doigt sur la réalité.
Et il était la langue de la précision.
De la diplomatie.
Mais de la précision, de la
parce
diplomatie.
Parce que de la précision, donc de la diplomatie.
Mais au-delà de la diplomatie et de la précision, c'est une langue littéraire forte qui épousait une vision du monde également forte, alors qu'aujourd'hui, évidemment, ce ne sont que le support d'une vision niant et sans intérêt. Et donc, comment s'étonner qu'elle s'effondre. Donc, je vous recommande cet ouvrage, Cette France que l'on oublie d'aimer, d'André Makin, chez Flammarion.
Merci. Et Tancred Josserand, qu'est-ce que vous lisez en ce moment ?
Moi, des manuels sur l'Italie médiévale.
D'accord, c'est passionnant.
Passionnant. Si, le Cantovitz sur Frédéric II.
Ah bah bien sûr, oui.
Qui est un chef-d'œuvre.
Vous connaissez par cœur maintenant.
Voilà, que je tiens à recommander à nos éditeurs. Une formidable leçon de volonté politique.
Grégoire Gambier, vous aviez
simplement une information pour nos auditeurs, puisque visiblement sort demain, jeudi 27 avril, le nouveau choc du mois, puisqu'qui avait été annoncé depuis quelques mois.
Ça va être un événement.
Donc, comme c'est demain, nous ne l'avons pas lu, donc on ne pourra pas se prononcer, mais simplement pour les auditeurs, ne serait-ce que par curiosité intellectuelle et par soutien, puisque la presse libre et de surcroît en français, il faut la soutenir. Donc pourquoi ne pas acheter au moins le premier numéro et s'abonner ensuite si l'on le souhaite. Le dossier est consacré au choc des civilisations, avec donc des contributions de Philippe de Saint-Robert, de Dominique Jamais, de Perroncel-Hugoz, etc. Un grand débat avec Alain de Benoît notamment. Un entretien, ça va vous plaire, Philippe Christel, avec Jean Von Hamm, le scénariste de 13, bien sûr, que vous connaissez.
Et de Largo Winch.
Ben oui, tout particulièrement. Une tribune libre de Gabriel Matzneff. Enfin, des grandes plumes, des sujets intéressants. Donc on espère que ce soit aussi intéressant qu'on nous l'annonce.
Et on peut préciser que le choc a souhaité reprendre un maximum des bonnes idées de son grand frère d'il y a quelques années. Espérons qu'il y a un peu plus qu'une simple copie et que le pari est réalisé. On peut en faire le crédit d'intention. On verra bien ça demain dans les kiosques, le choc du mois. Voilà, merci à tous pour cette émission des Chroniques de la Vieille Europe sur Radio Courtoisie. Merci à vous, Tancred Josserand, de nous avoir rejoints pour cet exposé passionnant sur la Turquie. Xavier Van Lierde, Patrick PL et vous, Grégoire Gambier, merci. Bonne soirée à tous les auditeurs. À bientôt.
When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always.
eyes look on the light side of life.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5. À Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 26 avril 2006 de 18h à 21h, en différé jeudi 27 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé.